bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Singapour sur le circuit de Marina Bay. Un circuit où certains ont brillé, d'autres ont brûlé, mais un homme a triomphé. Pour m'accompagner quand il n'essaie pas de draguer Gabriella, eh bien il s'extasie devant les victoires d'Alonso. Bonjour Dino.
Bonjour Sidney. Excuse-moi, je suis encore un peu stone du Grand Prix que j'ai vu, quoi, tu vois. J'ai eu ma dose de Fernando Alonso, quoi. Là, je suis, waouh, dis donc, au-dessus des nuages. Et je vole, je dis, je vole.
Tu es passé chez Jean-Luc Delarue?
Ouais, bon, c'est un pote d'enfance, hein. On a fait les bacs à Coco ensemble, donc, Donc bonjour Shiji et bonjour à vous tous chers auditeurs.
Donc un Grand Prix de Singapour, encore une fois, c'est pas forcément un Grand Prix passionnant, mais il se passe plein de trucs.
Mais pour te dire à quel point c'est un Grand Prix passionnant, enfin c'est un Grand Prix qui, où il se passe beaucoup de trucs, mais en même temps on a quand même, après coup, malgré tout, une impression un peu mitigée, c'est-à-dire que on sait qu'on a vu des choses, qu'on a vécu des choses, mais en même temps on se dit, finalement on n'a pas forcément vu grand chose. et d'ailleurs, quand je t'ai envoyé mon top 10, j'ai dit que c'était pas un top 10, c'est un top 4 plus 6. Parce que j'en ai vu 4, et les 6 autres c'est un peu des extrapolations. De voilà.
Ceux qui ont survécu, voilà. Mais pas que, mais on verra ça. Nous étions... le 26 septembre.
Je le crains.
Comme d'habitude.
Oui, je le crains. Ah non, tu as raison. On n'est pas le 26 septembre. Des fois, on est le 12.
C'est
des
vrai. Le 13 août. Mais là, on était le 26 septembre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. C'est pas drôle, en fait.
Nous étions donc le 26 septembre, et attention, le 26 septembre, c'est une très mauvaise blague que je vais faire, c'est un jour féminin puisqu'il y avait deux seins. Oui, je sais, elle était nulle. Mais je vous avais prévenu.
Oui.
Donc si vous avez rigolé, c'est que vous êtes nuls.
La question c'est, est-ce qu'on rigole à cause du jeu de mots, ou est-ce qu'on rigole à cause de l'audace?
Donc nous étions la Saint-Côme et la Saint-Damien.
Donc bonjour et... à Damien, hein, notre auditeur.
Enfin, c'est vrai.
Je sais même pas s'il nous écoute, Damien.
On l'espère.
Vu qu'il gagne pas au Fantasy F1, tout comme moi d'ailleurs.
Et nous allons remonter, Dino, au 26 septembre, moins 46. Oh. Ça date, hein.
Oh, ça, c'est un truc avec les Romains ou les Gaulois.
Ah ben, avec les deux. Puisque, d'après toi, c'est qui? Ça parle de qui?
Bah, la conquête de la Gaule, c'est moins 52.
C'est après.
Moins 46, ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Moins 46. Bah, César qui devient, qui se fait nommer empereur ou...
Ah, il n'a jamais été empereur, César.
Non, non, mais qui se fait nommer César, enfin, premier de la nation, enfin.
Alors, c'est pas ça, mais ça touche quand même à César. En fait, c'est une triste journée pour les Gaulois, puisque c'est le jour où César a ordonné l'assassinat de Vercingétorix.
Oui.
Donc c'est aussi le jour du décès de Vercingétorix dans sa prison à Rome.
Accessoirement, oui.
Voilà. Un tout petit peu plus près de chez nous, le 26 septembre 1655. Et là, attention, c'est une actu. Mais alors, c'est le truc qu'il faut savoir dans sa vie. Sache que dans la pièce Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand a dit que ce jour était un samedi, alors qu'en réalité, c'était un dimanche. Information Wikipédia. C'est marqué dans Wikipédia.
Non mais,
on mourra moins bête.
Je sais que Wikipédia, et on en reparlera plus tard, n'est pas une source ultra fiable.
Mais non. Mais c'est pour ça qu'il faut le savoir. Sinon, le 26 septembre 1887, Émile Berliner développe le disque plat qui remplacera le cylindre utilisé par Thomas Edison sur son phonographe. C'est quand même super important.
Bah oui.
T'imagines si on avait des cylindres Blu-ray, ça serait un peu la merde. Et on est passé du cylindre au disque.
Déjà que la PlayStation est suffisamment grosse, alors si en plus on avait des cylindres Blu-ray, ça faudrait un meuble en fait pour porter la PlayStation.
Sinon, le 26 septembre 1984, Londres et Pékin se mettaient d'accord pour la rétrocession de Hong Kong.
Qui a eu lieu en 97, je crois, non?
En 97, exactement. Sinon, le 26 septembre 1985, Coluche lance un appel sur Europe 1 et crée les Restos du Cœur. Fallait pas l'oublier. Les naissances du 26 septembre, et attention, cette semaine, c'est le grand écart. Mais le très grand. Puisque le 26 septembre 1791, naissait Théodore Géricault, le peintre, oui. Radou de la Méduse. Et le 26 septembre 1985, naissait M. Pokora.
J'ai cru que t'allais dire Jordi.
C'est presque la même chose.
Oui, il y a autant de profondeur de champ.
Ils nous ont quittés un 26 septembre. En 1902, Oscar Lévi-Strauss, l'inventeur allemand du blue jeans.
Ouais.
Eh oui, Lévis.
Et pas Lévi-Strauss. Et pas le philosophe, hein.
Non. Le 26 septembre 1983, nous quittait Tino Rossi.
Oh,
et n'oubliez jamais.
Papa Noël. C'est lui et qui a inventé le Père Noël. Hein.
Exact. Et n'oublions pas que ce jour-là, Pierre Desproges a pris deux fois des moules. C'est ouais, dans son c'est... sketch.
Ah bon?
Oui, en fait, il explique que le jour où Brassens est mort, il a pleuré, parce qu'il admirait Brassens. Et il dit ensuite, par contre, bizarrement, quand Tino Rossi est mort, j'ai repris deux fois des moules.
C'est
du Pierre Desproges. Sinon, le 26 septembre 2008, c'était un grand acteur, un grand réalisateur,
attends,
un grand scénariste, un grand producteur.
Attends, faut que je devine.
Les yeux bleus les plus célèbres du cinéma américain.
Les yeux bleus?
Enfin, très clair en tout cas.
Il est mort?
Oui, et en plus il a d'une certaine façon, pas un lien avec la F1, mais...
Merde! Il a été comédien... Attends, la vache. Je pense bien à quelqu'un, mais j'ai pas le nom.
Un homme que nous, les admirateurs du sport auto, quand même.
Oui. Non, mais...
Comment tu peux, franchement.
Paul Newman.
Eh oui, Paul Newman nous quittait il y a déjà 2 ans.
J'étais parti trop loin. Non mais parce que pour moi, Paul Newman, c'est presque même pas un comédien, quoi. Enfin, c'est.
Oui.
Je le connais plus. C'est terrible hein, pour un cinéphile. Mais je le connais plus pour ce qu'il a fait dans le monde automobile que pour ses films.
Passons aux célébrations de ce jour. Et bizarrement, on n'a pas de célébration nationale, mais on a des journées mondiales. Ça fait plusieurs émissions.
Ah, ça nous manquait. Ça nous manquait, hein, chers auditeurs.
Alors, la fête la
chewing gum, ouais. La fête de la pustule.
Attends, parce qu'il y a la journée mondiale de la contraception.
Ah non, c'est bien.
La journée mondiale du cœur, c'est bien aussi.
Sortez couverts, c'est bon pour le cœur.
Et journée européenne des langues.
Des langues.
Alors je. Non, des langues.
Je disais des landes.
Des landes. Et donc, en F1, j'aurais pu parler du Grand Prix de Chine, puisque en 2004, c'était le premier Grand Prix de Chine. Mais vu qu'on adore le Grand Prix de Chine,
oui, on va.
Je me suis dit, non, on va pas en parler.
On va peut-être éviter. Remporté par un kilo, je crois d'ailleurs, le premier Grand Prix de Chine.
Sinon, le 26 septembre, c'est aussi le 26 septembre 1994, Grand Prix du Portugal.
Ah.
Et qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix du Portugal?
Merde, justement, c'est un truc que j'ai lu, ça. Grand Prix du Portugal,
Qui est rentré encore un peu plus qu'il était déjà rentré dans l'histoire de la F1?
94, ah merde.
93.
Oui. Bah c'est Prost, non, quand il est titré?
Eh oui, c'est Prost qui gagne son 4e titre.
C'est lui que je cherchais tout à l'heure, je me suis dit, rappelle-toi, t'as vu un truc sur le 26 septembre, il y a un mec qui a eu un titre.
Eh oui, c'est Prost. Et donc, j'ai envie de parler des grands prix décisifs.
Alors, t'aurais pu me poser des questions sur Prost.
Oui, mais on aurait passé des heures sur Prost, et puis on a quand même une émission à faire.
Oui, alors que là, on va passer juste 1h30 sur les grands prix décisifs.
Mais non. Alors déjà, est-ce que tu connais les dates extrêmes des grands prix décisifs? Alors, mais non, souvent, c'est le dernier grand prix ou l'avant-dernier. Mais bon, comme les saisons ont beaucoup changé...
Bah, y a eu en...
Mais en date.
En date, je crois. Bah, le plus tôt, je crois que ça a été juillet pour le titre de 2004.
Non, c'était en août. C'était en Hongrie.
En août, en Hongrie? C'est ouais. Quand qu'il était titré en France? En 2002, alors?
C'est en 2002.
Et c'était en juillet?
C'était en juillet, c'était le 21. Et pourtant, ça n'est pas la date la plus précoce.
Alors, c'est peut-être dans les années 50-60, quand les saisons étaient plus courtes?
Exactement. En 1955, Fangio a été titré en Grande-Bretagne. Et c'était le 16, donc c'est à 5 jours près quand même.
Ouais, mais attends, c'est pas à l'époque où en fait on comptait pas tous les grands prix.
Oui, on comptait pas, mais il a été titré.
Est-ce qu'il a été titré officiellement ce jour-là parce qu'il avait déjà les résultats nécessaires, ou est-ce que
il avait déjà les résultats nécessaires, d'accord. Sachant que on est en juillet, mais en 1955 le Grand Prix de Grande-Bretagne c'était le 6e Grand Prix sur 7. Hein.
Oui, voilà, oui.
Hein, alors que bon, Schumacher c'était le 11e sur 17. Alors, donc on peut quand même dire que le plus tôt c'est quand même Schumi.
Oui.
Et alors, est-ce que tu connais la date la plus tardive pour un titre?
La plus tardive, mois de novembre.
C'est plus loin que ça encore.
Oh, c'est pas un titre qui a été donné, non, il n'y a pas eu de titre sur tapis vert.
Non, pas sur tapis vert.
Alors là, décembre?
C'est en décembre.
Attends, je me fais chier à chercher, en fait. Plus loin que novembre.
C'est plus loin, oui, ça peut que décembre. C'était en 1962, en Afrique du Sud, hémisphère sud, la course avait lieu le 29 décembre.
Oh la vache.
Et c'était Graham Hill et BRM qui sont titrés au dernier Grand Prix de la saison, sauf que le dernier Grand Prix, il avait lieu le 29 décembre.
J'adore, t'es champion du monde 1962 pour deux jours.
Ouais.
Voilà, le 30, le 31.
D'ailleurs, il y a des dates d'Afrique du Sud, parce que bien évidemment, ils roulaient à cette époque-là, parce que bien évidemment, c'est l'hémisphère sud.
Ouais.
Donc, il y a un moment où la date à Jean était déplacée d'une semaine. Et donc, le dernier Grand Prix de la saison est devenu le premier Grand Prix de la saison, mais genre le 2-3 janvier.
Oui.
Parce qu'on garde quand même l'année calendaire une saison de F1. Et alors, est-ce que tu connais les... Parce qu'il y a beaucoup de Grands Prix qui ont été décisifs, en fait. Il y en a près d'une vingtaine. C'est beaucoup, hein, sur 60 ans.
Bah, les records.
Est-ce que tu connais les pays qui ont été le plus souvent décisifs pour un titre?
Alors, si je me trompe pas, on avait fait une étude... J'avais dû faire une question historique sur ça l'an dernier. Ces dernières années, c'est le Brésil.
C'est le Brésil. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait croire que le Brésil l'est depuis longtemps. Et en fait, pas du tout. Ils le sont depuis 2005.
Ouais.
C'est-à-dire, avant 2005, le Brésil n'avait jamais été décisif. Par contre, depuis 2005, tous les ans, c'est décisif au Brésil.
Et, avec 5 fois. Et, je pense que le premier, ça va être le Japon.
C'est le Japon avec 12 fois.
Et l'Italie alors, est pas loin, par contre.
On se voit pour le Grand Prix du Japon et une fois pour le Grand Prix du Pacifique.
Oui, voilà.
Et l'Italie, en effet, très longtemps a eu le record, puisqu'ils ont été décisifs 11 fois. Mais on pourrait vraiment en citer plein. L'Espagne a été une fois, le Grand Prix d'Europe 2 fois, l'Australie 1 fois, l'Allemagne 3 fois, l'Autriche 2 fois, la Grande-Bretagne 2 fois. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de pays qui ne le sont plus, parce que plus il y a de Grand Prix, plus ils sont tôt dans la saison. Le Canada 1 fois, la Suisse 1 fois, le Maroc.
Alors que je crois d'ailleurs que le Maroc, il n'y a eu qu'une ou deux courses, je crois.
Oui, en plus, oui. Le Mexique 3 fois, le Portugal 3 fois. On peut noter aussi les États-Unis, qui l'ont quand même été 6 fois, 3 fois Grand Prix des États-Unis, 1 fois un Grand Prix des États-Unis Est, et 2 fois à Las Vegas.
Ouais.
Donc, beaucoup de pays, dont la France.
Ah, les
donc,
mecs,
en 2000, en 2002,
mais une fois. À Las Vegas, il devait être cassé le lendemain. Il devait être mort, le mec. Mort et ruiné, hein.
Oui. Donc voilà, c'était l'éphéméride. Alors d'après toi, en 2010, bon, a priori, ça va pas être le Japon.
Non.
Non.
Ça sera peut-être la Corée.
Ça paraît compliqué quand même, la Corée. Il est quand même plus probable que ça soit encore une fois le Brésil, voire Abu Dhabi.
On verra. Ce sera le Brésil s'il y a un gros carambolage au Japon qui exclut facilement deux ou trois hommes du titre. Maintenant, je pense que mathématiquement, aujourd'hui, c'est quasiment fait, ça se jouera à Abu Dhabi. Parce qu'ils sont quand même 5, et qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'au moins 2 des 5 pilotes se tiennent en moins de 25 points d'ici 3 courses.
Ils seront peut-être plus forcément 5, mais oui, à Abu Dhabi. Ouais.
Il en faut que 2 hein, pour que le titre se joue là-bas.
Tout à fait. Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride.
Oui.
Et on va passer au JT. Bonjour et bienvenue dans le JT du SAV daté du 28 septembre. Et nous allons commencer par un mea culpa, un erratum, Dino.
Non, hein? C'est toi. Oh.
Bon, d'accord.
Me mêle pas à cette histoire.
C'est vrai, on a beaucoup balancé sur Jean Lyoncé. Et en fait, il avait raison.
Non, on n'a pas balancé. Tu lui as mis un petit drive-thru. Assume, Gigi.
Oui, mais c'était pas très clair à l'époque.
Oui, ça l'est toujours pas autant.
Oui. Oui, mais il avait raison, même si c'est pas très clair. Donc voilà, on s'excuse.
Il avait raison sans vraiment avoir raison. Enfin, c'est-à-dire que la manière dont il avait expliqué la chose, c'était vraiment que finalement il n'y aurait pas de Lotus l'année prochaine et qu'il devrait trouver un autre nom. Sauf que l'autre nom, ils l'ont déjà, c'est Lotus. C'est le problème.
Oui, parce que parce que même si c'est moi qui m'excuse, c'est toi qui a un peu essayé de démêler l'imbroglio.
Donc oui, j'ai essayé de m'intéresser, d'essayer de comprendre l'origine de cet imbroglio autour de Lotus, un imbroglio qui est en train de devenir une procédure judiciaire, puisque
c'est un imbroglio quasiment qui date d'il y a 25 ans.
Oui. Alors
qui est né il y a 25 ans.
Il faut revenir déjà aux origines de cette affaire Lotus. On pourrait l'appeler l'affaire Lotus, même si c'est moins grave que les grandes affaires qu'ont connues la F1 ces dernières années. C'est l'occasion, je crois, du Grand Prix de Belgique ou d'Italie.
C'est en Italie que les annonces ont été faites.
Que Jean-Louis Moncey a donc annoncé que Lotus n'aurait plus le soutien de Lotus et devrait donc changer de nom. Et inversement, sur la plupart des sites d'information, est arrivée une information contraire, nous affirmant que Lotus allait évoluer puisqu'elle allait récupérer le nom Team Lotus. Alors, on est dans une situation assez complexe et je pense qu'il est nécessaire pour cela de revenir un peu aux origines, parce que lors des deux dernières semaines, on a appris donc effectivement Lotus, enfin l'écurie avait acheté le droit d'utiliser le nom Team Lotus. Mais que aujourd'hui, Lotus, qui est détenue par Proton, elle nie cette autorité de l'écurie à pouvoir utiliser le nom Team Lotus.
Parce qu'il faut revenir à l'origine de pourquoi il y a deux Lotus.
Tout d'abord, revenir vraiment à l'origine de l'écurie Lotus, l'écurie telle que nous l'avons aujourd'hui. Alors, il faut rappeler dans quel contexte elle est venue. Elle est venue lors de la grande ouverture de la Formule 1 vers les nouvelles écuries, avec le projet d'intégrer de nouvelles écuries en 2009, sur la base, on le sait, du projet plafonné à, je crois que c'était 45 millions de dollars, ou d'euros, je sais plus. Et donc, l'une des équipes candidates était l'équipe Lightspeed F3, qui espérait monter donc en Formule 1. Cette écurie était notamment soutenue par David Hunt, qui est l'ancien propriétaire, le dernier propriétaire du Team Lotus.
Le frère de James Hunt,
qui a soutenu ce projet, parce que depuis la fin de Lotus, il espérait voir Lotus revenir en Formule 1, et il a justement saisi l'opportunité pour s'associer au projet Lightspeed, qui a été trouvé des fonds en Malaisie. Le projet n'a pas été retenu dans un premier temps, et c'est avec l'annonce du retrait de BMW qu'un deuxième appel d'offres a été lancé, et que cet appel d'offres a vu le succès finalement du projet Lotus, qui cette fois-ci était vraiment un projet malaisien. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a une petite écurie de F3 dans un premier temps qui se porte candidate, soutenue par David Hunt, qui détient le nom Team Lotus, et qui a des soutiens malaisiens. Cette écurie donc est recalée dans un premier temps, puis ensuite, lors du deuxième appel d'offres, elle est retenue, mais c'est plus le même projet. C'est-à-dire qu'en fait, sur les cendres du premier, sur les ruines du premier, eh ben, Tony Fernandez, qui était impliqué en tant que partenaire, finalement, a pris un peu le projet à sa main, a réussi à y associer le gouvernement malaisien, qui a voulu faire la promotion du savoir-faire et des entreprises un peu malaisiennes, et donc qui a associé plusieurs marques, d'abord Tony Fernandez avec Tune Group et notamment Air Asia, ainsi que Proton, via Lotus. Et c'est là effectivement qu'au départ on avait donc une écurie Lightspeed qui allait s'appelait Lotus, le projet s'appelait Lightspeed Lotus, parce qu'il y avait le nom Team Lotus, et qu'ensuite, le nom Lotus est resté, mais cette fois-ci, Lotus le constructeur. Donc, là, c'est un peu les origines. Et comme tu l'as dit, il faut revenir vraiment aux origines de pourquoi il y a deux choses. Il faut revenir tout simplement à la fin de Lotus, en 1994.
On peut même remonter aux années 80.
Oui.
La séparation date des années 80.
Lotus est rachetée, est en pleine banqueroute, elle est rachetée par David Hunt, qui devient de fait le propriétaire du nom Team Lotus. David Hunt, tu l'as dit, c'est le frère de James Hunt. il avait investi jusque là, donc c'est un ancien, il a fait quelques courses je crois en Formule 1, il a fait de la F3 face à Senna, etc. au début des années 80. Et il a ensuite quitté le monde de l'automobile pour investir dans un réseau de marketing qu'il va vendre en 94 pour racheter Lotus et essayer de la sauver. En 94, l'écurie Lotus disparaît parce qu'il n'arrive pas à la sauver. Elle disparaît parce qu'en fait, lui va aller s'associer avec Pacific. Donc, les deux écuries vont fusionner. Pacific est arrivé en 94. Les deux écuries vont fusionner pour 95. Donc, finalement, Lotus devient une composante de l'écurie Pacific en 95, mais Pacific n'ira pas plus loin. Et donc, Lotus, à ce moment-là, l'écurie meurt. Et ce n'est que 3 ans plus tard, en 98, que Lotus, le constructeur, Lotus, la marque de voiture, va être acheté par Proton.
D'accord. Alors attention, parce que on l'avait dit lorsque Lotus est arrivé, en fait, le constructeur et l'équipe ont été séparés en 85.
Mais
c'est-à-dire qu'après après le décès de Collision, non, mais il faut bien dire que quand l'équipe Lotus meurt, en fait, l'équipe Lotus, donc Team Lotus et le constructeur, ce sont deux entités séparées à ce moment-là.
Mais c'est justement là qu'on arrive finalement sur le fond de ce problème finalement. C'est qu'on a finalement deux entités qui, depuis, sont différentes. Avec d'un côté une évolution qui a vu émerger le personnage de David Hunt, qui aujourd'hui se revendique comme étant le propriétaire du nom Team Lotus.
Ce qui était le propriétaire de l'équipe.
Voilà. Dont il a d'abord accordé la licence à Lightspeed, mais comme le projet a échoué, il a gardé la licence. Il n'avait pas donné la licence cette année au deuxième projet Lotus, qui a fait son apparition et qui a été aligné sur les grilles et qui a aujourd'hui vendu à Tony Fernandez le nom. Parce que on l'a appris récemment, en fait, Proton, qui est derrière le groupe Lotus et donc derrière Lotus, la marque, Proton a décidé de se désengager. Parce que effectivement, il y a des affaires d'espionnage et qu'ils trouvent que ça porte un teint à leur image, etc. Donc ils ne veulent plus voir le nom Lotus associé à l'écurie. Et c'est là où Tony Fernandez s'est dit, bah j'ai qu'à racheter le nom Team Lotus. Mais le problème juridique, c'est finalement, est-ce que c'est bien le dernier propriétaire de l'écurie qui est détenteur du nom, ou est-ce que Lotus, en tant que constructeur et en tant que effectivement père fondateur de cette écurie, de ce nom, est-ce que Lotus n'en est pas aussi un dépositaire? Et c'est vrai que donc il y a vraiment un mélange des genres qui est assez difficile et assez obscur. Moi, c'est vrai que j'avoue, Lotus, moi j'en étais venu à faire la réduction que l'écurie Lotus, c'était derrière Proton. Et en fait, non, c'est une écurie qui appartient à l'État malaisien, qui a associé plusieurs groupes financiers, qui espère l'année prochaine associer Petronas, on le sait, il y a des rapprochements entre Petronas et Lotus, et tout ça essaye de fonctionner, mais en fait, Proton n'est qu'une petite partie, et n'a juste servi qu'à donner un nom à cette écurie. Alors je sais pas si c'est un hasard ou pas, le rapprochement à l'origine du projet de Lightspeed et d'investisseurs malaisiens. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que justement il y avait l'objectif de finalement peut-être réunir les deux Lotus, réunir à la fois dans le même héritage l'écurie Lotus et le constructeur. Voilà, en tout cas, ce que aujourd'hui, normalement, théoriquement, le nom Lotus devrait rester.
La question c'est, est-ce que le constructeur a tous les droits marketing, toutes images sur la marque, ce qui paraît très logique. Et puis du côté de Fernandez, ben ils vont rappeler que en effet, l'écurie de F1 a été séparée du constructeur il y a près de 25 ans, donc elles ont existé toutes les deux en portant le même nom, le même logo, mais que de fait, l'écurie était séparée du constructeur. Et donc, à partir de ce moment-là, pour tout ce qui concerne la F1, la marque est séparée. Ça va être l'argument de la défense, forcément. Et en plus, ils pourront rétorquer, du côté de la défense, que l'équipe s'appelle Lotus Racing. Le nom qu'on leur a attribué, c'est Lotus Racing.
Oui.
Donc, ils pourront tout à fait dire, mais attendez, si la marque Team Lotus était au constructeur automobile, pourquoi on n'appelle pas, pourquoi on n'a pas appelé l'écurie Team Lotus avec le logo Lotus, puisque l'écurie n'a pas le logo Lotus cette année. Alors, on va passer à un autre thème et on va passer à l'Arlésienne, les déboires du Grand Prix de Corée.
Oui.
Vous savez, celui qui aurait dû être homologué il y a 3 mois, qui devait être homologué aujourd'hui.
Il sera homologué, enfin, qui devrait être homologué après le Grand Prix du Japon.
Ouais, 11 jours avant le Grand Prix.
Ce qui fait que les équipes vont être obligées d'envoyer le matériel sans savoir s'il y aura effectivement le Grand Prix.
De louer des avions, de louer des hôtels. Alors moi, franchement, je serais à la place des équipes. Si jamais la course n'est pas homologuée, je vais réclamer de la thune à la FOM. Hein.
Bah, la FOM, non, parce que c'est pas la FOM qui est responsable dans ce coup-là. C'est la FOM.
Oh non, mais... Oui, voilà.
Bien évidemment,
je vais réclamer de l'argent.
Le rapace. On est bien d'accord.
Mais attends,
bien évidemment, il y a des pressions de Bernie Ecclestone pour retarder au maximum. Mais les responsables, c'est la FIA, c'est à la FIA de faire l'inspection, c'est à la FIA aussi de se prendre en main et de ne pas se laisser influencer par Bernie Ecclestone.
Ils n'ont même pas appliqué leur propre règlement. Donc.
La FIA qui n'applique pas son propre règlement, je te dis.
Bernie admet enfin que peut-être le Grand Prix n'aura pas lieu.
Oui, et d'ailleurs, ça sent le roussi quand même pour ce Grand Prix de Corée, parce que on en a un qui a pris ses marques par rapport au Grand Prix de Corée. C'est notre ami Herman Tilke, hein, qui a tenu quand même à rappeler que lui ne faisait que dessiner les Grands Prix et qu'il n'avait aucun lien avec la construction, que les retards n'étaient pas de sa faute, qu'il a fait que dessiner le circuit, qu'il avait qu'un rôle de conseiller. Et c'est vrai qu'à l'origine, dès le départ, hein, on sait très bien que ce projet coréen est un projet, certes, conseillé par Herman Tilke, mais où Herman Tilke n'a pas la même mainmise que sur la plupart des circuits de Formule 1. Ils ont vraiment tenu à garder leur maître mot.
Ouais. Et puis alors là on commence à se poser des questions, bien évidemment, forcément par rapport à la fin du championnat. Alors comme par hasard, McLaren, ils aimeraient bien quand même que le Grand Prix ait lieu.
Bah oui.
Et bizarrement chez Red Bull, ils seraient pas mécontents qu'il ait pas lieu.
Chez Ferrari, je pense aussi qu'ils seraient très contents qu'il ait pas lieu.
Ah, parce que,
oui, mais enfin, avec le nombre de moteurs qu'ils ont,
oui, c'est vrai que
ça donne
oui.
Peut-être une opportunité de moins, mais en tout cas, c'est un grand prix de moins, surtout que c'est un grand prix avec trois immenses lignes droites, qui risquent tout de même d'être assez exigeants pour les moteurs.
Donc, on va passer à un autre thème. On va passer au classique transfert. Oh. Mais bon, ça va pas être très long, puisque ça bouge pas.
Ah bah alors, Red Bull c'est fait, Ferrari c'est fait. Ah non, Ferrari c'est peut-être pas fait.
Oh si, c'est fait.
Ah, non, mais attention, parce que Massa s'est énervé ce week-end.
Ah bon?
Il en a dit qu'il en avait marre des rumeurs. Il a mis les points sur les i, et je crois même que Domenicali aussi a commenté les rumeurs en disant que c'est bon, ça suffisait, etc. Massa, ce week-end, il a été pas mal perturbé par ces histoires de rumeurs.
Oh, genre, l'excuse.
Non, c'est pas perturbé au sens où ça, oui. Ça explique ses résultats. Non, il y a rien qui explique ses résultats. Perturbé au sens où on lui a quand même plus posé des questions sur son avenir chez Ferrari que sur les réglages de la voiture, etc. quoi. Le genre de questions qu'on ne posera jamais dans F1 2010.
Et sinon, bah, c'est toujours l'histoire du paquet Renault, hein. De toute façon, il y a que celui-là.
Bah, c'est pas qu'il y a que celui-là, c'est ce baquet-là qui tient la clé du marché.
Ah, vu c'est que c'est le meilleur
paquet restant, donc.
On passe maintenant à une nouvelle qui va faire plaisir à tous les gens qui ont acheté une belle télé chez eux. Après des années, les fans le demandaient, hein, dans les sondages, tu sais, les fameux, justement, les sondages LG. Oui. Une des demandes des fans, c'était que la F1 passe enfin en HD, en haute définition. Et alors, même si c'est pas encore officiel,
non.
Il semblerait acquis que pour l'an prochain, peut-être même dès Abu Dhabi, parce que l'an dernier, le Grand Prix d'Abu Dhabi avait déjà été diffusé en HD. Donc peut-être dès Abu Dhabi cette année, on va enfin avoir la F1 en HD. Bon, la 3D, on va attendre un peu. Hein. Les gens ne sont pas encore équipés en
télé
3D.
Oui, honnêtement, l'intérêt de la 3D. Déjà,
non.
Moi, je trouve la HD, enfin...
Oui, non, mais quand même, niveau qualité d'image...
Hein, quand même, d'accord, mais moi, j'ai une télévision HD. Je suis pas forcément gêné par...
Non, surtout en F1, faut savoir qu'on a quand même de la SD upscalée. Donc, c'est-à-dire que par rapport à une image normale, on a déjà un truc mieux. Mais c'est vrai que, quand même, la F1, c'est la technologie, c'est quand même... certaines idées du modernisme.
Oui, mais ça, non, faut pas non plus aller pousser jusque là.
Mais il y a aussi le fait que voilà, aujourd'hui, une Coupe du Monde de foot, la Ligue des Champions, les grands événements sportifs sont en HD, c'est pas normal que la F1 soit pas en HD.
Maintenant, est-ce que vraiment c'est si important que ça pour la F1? Je suis pas convaincu que ça va nous changer notre manière de voir la F1. Ça rendra pas forcément les images plus belles, ou l'immersion plus belle, ou les courses plus intéressantes. Je pense honnêtement qu'il y a des révolutions bien plus importantes à attendre du côté de la Formule 1 que la HD.
Non, mais c'est pour le confort et tout, bien sûr. On voit, les images sont déjà très belles. Mais quand ça peut être encore mieux.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Bah, déjà, faudra avoir une télé en HD. Faudra recevoir TF1 HD.
Oui.
Puisque le téléphone normal diffusera un signal normal.
Ça va, tout ça, je l'ai déjà.
Donc téléphone HD, normalement, si vous avez soit un opérateur internet, le satellite, le câble, ou bien par la TNT, mais c'est pas partout la TNT HD. Et attention, parce que vous pouvez recevoir la TNT, mais pas la TNT HD.
Ouais.
Donc attention. Par contre, ce qui est bien, c'est que si vous décidez d'acheter une télé, normalement, les télés de plus de 30 pouces, normalement, ont un décodeur TNT HD. Parce que c'est aussi ça, si vous avez une télé HD qui a 3-4 ans, il n'y a pas forcément le décodeur avec.
Ouais.
Donc, bien faire attention à ces deux éléments. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà. Télé en, l'AF1 en HD, enfin.
Oui.
Tu verras, mais t'apprécieras.
Oui, non,
et
mais...
Tu feras, et
non,
tu,
mais...
fais, tu diras, il est encore plus beau, Fernando.
Oui.
Tout le monde a changé sa télé depuis 3 ans. Les gens veulent rentabiliser leur investissement.
Mais les gens, ils achètent des télé HD parce qu'on leur dit d'acheter des télé HD, parce qu'on leur vend du HD. Mais est-ce que les gens ont besoin du HD? Je pense pas. Moi, j'ai pas besoin de voir de la HD. Je l'achète et j'en ai conscience. Je l'achète parce qu'on me vend du HD, parce que voilà.
Bah, pourquoi t'achètes des Blu-ray?
Parce que je... non mais pourquoi j'achète? Non mais c'est justement ce que je te dis, c'est que dans cette histoire de HD, tout comme cette histoire de 3D, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir de la HD? Moi, j'étais très content de mes DVD.
Non,
c'est quand on m'a foutu un Blu-ray, j'ai dit ah ouais, le DVD effectivement c'est moins bien. On m'aurait pas sorti le Blu-ray, ma vie n'aurait pas été changée, mon plaisir de voir des films n'aurait pas été changé.
Mais ça, t'es quand même content d'avoir des Blu-ray.
Je suis pas plus content d'avoir des Blu-ray que d'avoir des DVD.
Mais en ce cas, pourquoi t'achètes pas juste les DVD?
Mais non, voilà, maintenant c'est du tout, si tu veux le truc, maintenant c'est que moi j'ai un lecteur Blu-ray, donc quitte à acheter un film, je préfère l'acheter en Blu-ray, parce qu'effectivement il y a une meilleure qualité. Mais ce que je veux te dire derrière, c'est que, au-delà de la qualité, je pense que surtout, faut pas se leurrer, c'est que la HD, c'est quelque chose qui a été imaginé, et mis en place par les fabricants de télévision et l'industrie du cinéma, pour augmenter leurs ventes, pour nous vendre du nouveau, etc. Et c'est la même chose avec la 3D. Tout le monde se frotte les doigts du succès, se frotte les mains du succès d'Avatar, parce que effectivement, Avatar, ça a ouvert le jackpot pour LG, etc. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, les fans veulent la HD. Et comment on le sait? Grâce au sondage LG.
C'est bon, les fans n'ont pas besoin de l'aide de LG pour vouloir la HD non plus.
Mais non, mais c'est ne serait-ce déjà que poser une question dans un sondage sur est-ce que vous voulez que la F1 passe à la HD. Honnêtement, c'est pas une question qui devient comme ça. Mais LG, il te pose la question. Donc automatiquement, parce qu'on te pose la question, ça devient un besoin nécessaire.
Allez, on va passer à quelque chose qu'on verra aussi l'an prochain, hein, sur les images HD.
Et ça c'est sera les pneus. Pas une deuxième écurie.
Non, c'est les pneus.
Oui.
Les pneus Pirelli.
Mais est-ce qu'on les verra mieux? Ah. Est-ce qu'on
peut-être
verra les petites traces de boulettes de gomme là, hein, sur les pneus?
Normalement, oui. Peut-être.
Non, mais pour ça, faudrait que les Alors moi, je veux bien la HD. Je veux bien, mais à une condition. Je veux que les grands prix de Formule 1 soient tournés avec des caméras IMAX.
Ah ouais, carrément.
Ah bah oui. Ah, non, mais honnêtement, quitte à s'offrir la HD. Autant aller vraiment à fond et vraiment offrir des véritables images haute définition avec une définition exceptionnelle. Et tu verras que dans 10 ans, on nous dira « Mais la HD, c'est terminé, maintenant faut passer à la THD, la très haute définition. » Et dans 30 ans, nos petits-enfants, ils auront de la GHD, de la giga haute définition.
Ils auront un mur.
Oui.
Donc, les pneus Pirelli, hein, qui ont annoncé qu'ils étaient à une seconde des pneus Bridgestone, donc pour des pneus qui arrivent, entre guillemets.
C'est pas mal.
C'est pas mal du tout.
Alors, faut savoir qu'ils ont fait des comparatifs, en fait, avec lors des essais à Monza.
Et on a appris, donc, il y avait eu Etfel, mais Etfel, maintenant, il a repris du service.
Ouais.
Il y a eu Grosjean qui a tourné, et bah, ils ont pris ce qui restait, et ce qui restait, c'est Pedro de la Rosa, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée.
C'est pas une mauvaise idée, puis en plus ça va dans la vocation écologique des pneumatiques. La Formule 1 veut des pneumatiques plus écolo, et ben là c'est Pirelli commence déjà par recycler les anciens pilotes, et on espère faire du neuf avec du vieux. On a vu ce que ça donnait ce week-end avec Heidfeld, hein, ça marche super.
Oui, super bien. Donc encore beaucoup, et finalement l'an prochain, il y a de fortes chances que les temps soient les mêmes, hein, parce que bon, il y a encore 7 secondes, mais
même, voilà, moi ça me fait rire quand on me parle de la seconde de différence. Oui, mais maintenant c'est fait avec une Toyota qui déjà est une Toyota 2009 mise au goût du jour pour la réglementation 2010, mais qui n'aura jamais le niveau d'efficacité. On aura, je pense, vraiment les vrais écarts, et on verra vraiment à Abu Dhabi lors des jours Pirelli.
Alors Dino, un dernier thème, tu as appris qu'il y aurait un accord sur la réduction des coûts. Mais attention, un accord très particulier.
Oui. Parce que vous savez qu'il y a, il y a un accord sur la, la réduction des coûts jusqu'en 2012, et il aurait été trouvé un accord entre les différentes écuries sur les coûts entre 2012 et 2017. Et c'est un accord qui vise à la réduction, mais à l'augmentation. Alors vous dites, cette phrase n'a aucun sens, Dino. Oui, c'est vrai, elle n'a aucun sens, sauf pour les écuries de Formule 1. Puisqu'en fait, ça va réduire. Mais ils ont tenu compte du fait que la réduction des coûts consentis en 2009 était faite dans un contexte de crise. Donc,
oui.
En 2012, on sera plus en crise. Donc, ils augmentent un petit peu pour compenser, le dire, voilà, on n'est plus en crise, on peut claquer un peu plus de blé. Mais pourtant, on reste dans la philosophie de réduction des coûts.
Donc, c'est de la réduction des coûts, mais on dépense plus.
Disons qu'on dépense plus, mais si on rapporte ça aux recettes des écuries, on dépensera moins.
Ouh là là.
Voilà, c'est-à-dire que quand il y a plus de sponsors qui viennent, et puis la relance économique va relancer le monde, hein, les constructeurs vont revenir, etc., Toyota va revenir faire du blé, etc.
Bien sûr, oui, les nouveaux moteurs, la F1 va sauver le monde.
Voilà, et donc, du coup, ils auront plus de bénéfices. Ils dépenseront un petit peu plus, mais avec les bénéfices qu'ils ont gagnés, ils vont réduire.
Ah.
C'est logique. C'est juste, fallait y penser. Voilà.
C'est la F1.
Voilà.
Alors, notre petit Dino, nous as-tu préparé une question actu cette semaine?
Non, j'ai eu tellement de mal à comprendre Lotus, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours rien compris. Hein. Je me suis limité, vous savez, quand je prépare mes questions actu, je fais plein de recherches, etc., et je note quelques petits trucs, voilà, des petits trucs insolites, etc., et puis jusqu'à ce que j'aille la lumière divine qui me touche, voilà. Là, j'ai même pas eu le temps que la lumière divine me touche, hein. J'ai fait mes recherches, puis on a fait le test F1 2010, j'ai fait le montage, etc., et donc du coup, j'ai pas vraiment cherché, quoi. Mais j'ai quand même mon petit travail préparatoire, donc j'ai trois... petite question actuelle qui passe inaperçue à te soumettre, je te dis.
D'accord.
Avec différentes catégories, hein.
Ah.
Donc, première petite question insolite. Je te demanderai tout simplement ce que l'on pouvait acheter ce week-end à Singapour pour la modique somme de 2 euros. Enfin, 2 dollars.
Du chewing-gum.
Non. Je crois que c'est interdit d'ailleurs, le chewing-gum à
Singapour. Oui, c'est interdit. C'est un objet de la F1 ou...
Non.
C'est quelque chose de typique à Singapour?
C'est pas typique à Singapour, mais effectivement, ça a aussi pour objectif d'un peu décrire cette course de Singapour.
Une ampoule.
Non.
Ça décrit bien. Hein. C'est quelque chose qu'on trouve autre part qu'à Singapour.
On peut trouver autre part, mais là c'était vendu à Singapour. C'est d'ailleurs très conseillé si vous allez sur des courses, c'est très conseillé surtout pour les enfants.
Ah, des boules qui est.
Effectivement, et tu pouvais acheter à Singapour ce qu'ils appelaient le survival kit, le kit de survie contenant des boules qui est, et très important les boules qui est, surtout si vous allez oui. sur des courses avec des enfants, pensez bien à prévoir des boules qui est ou des casques
anti-boules. Des casques, c'est vrai.
C'est très important.
On a la chance d'être dans un sport où on peut amener les enfants, ouais. mais faut faire attention quand même.
Voilà. Et il n'y avait pas que des boules qui est. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il y avait d'autres dans ce kit
Alors,
de survie?
Kit de survie. Donc c'est à destination des habitants de Singapour, je suppose.
C'est à destination des habitants de Singapour, surtout des spectateurs qui sont venus à la course.
D'accord. Donc peut-être une protection pour la pluie.
Et tout à fait. Il y avait une espèce de poncho en plastique dedans.
Ouais, ouais, hein, plastique, ouais.
Parce qu'ils ont dit voilà, Singapour, c'est une course en ville, c'est très bruyant, mais en même temps, parfois il pleut. Donc il faut se couvrir les oreilles et se couvrir aussi le corps.
Hein.
Et c'est tout.
Ah, c'est tout.
Ah, c'est que 2 euros, je te dis.
Non, mais tu sais, j'imagine une petite loupiote ou une casquette, tu vois, un truc.
Une loupiote. Le mec, une loupiote, c'est une petite ampoule à LED. Il doit avoir l'air con. Ah, t'as vu, j'ai de la lumière. Oui, bah, eux aussi, ils en ont, regarde. Donc, Shinji, prêt pour la deuxième petite question que tu qui passe inaperçue?
Oui.
Une question super facile. J'aimerais savoir de qui Bernd Meilander a-t-il défendu les couleurs ce week-end à Singapour.
Bernd Meilander, c'est pas le type qui conduit la safety car?
Oui.
Ouais.
De qui a-t-il défendu les couleurs?
De Allianz.
Oui, Allianz. Première historique, la safety car a été sponsorisée.
Eh oh, il y a un espace à sponsoriser.
Ah, oh.
On en profite.
En plus, les mecs, ils ont bien choisi leur course, quoi. Ils ont pas choisi de, tu sais, faire ça, je sais pas, un endroit où on utilise jamais la safety car, quoi.
C'est un bon sponsor, c'est une assurance.
Oui, voilà. Et enfin, Shinji, une dernière question. Et là, je vais un petit peu anticiper sur le Japon. Je prends un risque, parce que c'est limite une question actuelle pour le Japon.
Oula.
Mais, voilà, je préfère le faire tout de suite et me mettre un challenge de trouver une autre question actuelle pour le Japon. J'aimerais savoir pour quelle raison, quoi qu'il arrive, Sébastien Vettel ne pourra pas battre son record personnel sur le circuit de Suzuka au Japon dans 15 jours.
C'est par rapport à son âge ?
Non.
Est-ce que c'est le nombre de fois qu'il a abandonné, le pourcentage qu'il a abandonné par rapport... Non. C'est une question de date ?
Non.
D'accord. Est-ce que c'est lié au Grand Prix du Japon ou par rapport à la carrière de Vettel ?
C'est pas lié à sa carrière, et c'est lié au Grand Prix du Japon, oui. Mais pas, enfin, c'est pas une piste à creuser.
Ah, il aura fini son Sudoku?
Non. Il faut rappeler que l'année dernière, il avait fait un Sudoku dans les stands pendant, je crois, la qualif ou les essais. Parce que justement, il économisait ses moteurs, comme un peu Fernando Alonso va être obligé de faire, il économisait ses moteurs et donc,
C'est son nombre de victoires par saison?
Non. C'est un record spécifique à Suzuka. Elle est tordue cette question, en fait. Ça faisait une bonne question. Ouais.
Carrément.
Mais j'avais peur que ça se sache. Surtout que je te connais et que tu es assez cultivé et que je pense que tu l'aurais su entre temps. Il a profité qu'il était en Asie pour aller à un endroit où il a fait ce record sur Suzuka.
C'est lié à côté de la course ou c'est vraiment un truc, un record lié à la F1?
Ah, ça n'a aucun rapport avec la course.
Ouais.
Mais c'est un rapport intime avec Suzuka. Mais ça n'a aucun rapport avec...
C'est la grande roue?
Non.
Il va faire du shopping à Tokyo? Je sais pas.
Ah! C'est à Tokyo qu'il est allé.
Ah, c'est quand même pas encore le Tokyo Game Show.
Ah, c'est lié au Tokyo Game Show. C'est pour ça que je voulais pas le faire à Suzuka, parce que c'est lié au Tokyo Game Show, et déjà l'an dernier, j'ai fait un truc sur Tokyo Game Show. Alors bon...
C'est lié à GT5?
Oui.
Ah oui. Ah. C'est pas lié à la Red Bull, je sais pas comment elle s'appelle,
oui,
là.
Le prototype Red Bull X1.
Qui est donc une voiture qui n'existe pas.
Une voiture qui n'existe pas, qui
ne va exister que dans GT5.
Oui, un peu comme la plupart des GT5 ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle un peu exceptionnel. Alors, on se rappelle, par exemple, alors même si lui, il a existé, l'espace F1, dans, je crois que c'est le premier ou le deuxième.
Ah, il existait avant la série.
Oui, voilà. Lui, il existait avant.
Il a été mis dedans, mais il y a le Citroën GT, par exemple.
Dans le prologue, par exemple. Et là, donc, effectivement, il y aura le Red Bull X1. C'est un prototype à la fois entre un prototype du Mans et une Formule 1, puisque il a... Voilà.
Et donc, le circuit de Suzuka est dans Gran Turismo 5. Et il me semble que cette voiture fait un temps de malade.
Sébastien Vettel a battu le record du tour de Suzuka de 20 secondes avec cette voiture.
20 secondes.
Après, là, on avait parlé du générique et de la bande-annonce du jeu.
Bande-annonce, oui.
Et que dedans, on avait remarqué la présence un peu mystérieuse de Adrian Newey et de Sébastien Vettel. Et on s'était dit, ça se trouve, c'est que la Red Bull va être la Formule 1 à gagner. Comme c'est souvent le cas.
Ça serait pas étonnant qu'il y soit, parce que s'il y a ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un constructeur Red Bull.
Oui.
Donc, s'il y a ça, il y aura peut-être juste à côté la Formule 1.
Voilà. Et en fait, non. C'est parce que le Gran Turismo a demandé à Adrian Newey, lui ont demandé si ça lui ferait plaisir de concevoir une voiture avec aucune limite.
Ah bah oui.
La seule limite, c'est d'être réaliste. Mais oui. Aucune contrainte réglementaire de poids, voilà, il faut juste que cette voiture, voilà, techniquement, puisse rouler. Et donc, ils ont eu aussi l'idée de demander, en partenariat avec Red Bull, de demander à Sébastien Vettel d'être le pilote de cette voiture, à la fois dans le jeu, et aussi de faire un test lors du Tokyo Game Show, où il a battu de 20 secondes le tour de Suzuka. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette session extraordinaire de questions actuelles qui passe inaperçue, même quand je les prépare.
On passe à la course.
Ah, of course.
Et on passe à la grille. Et malheureusement, la place du con, c'est Felipe Massa, qui n'a même pas de temps.
Ouais.
Donc il est 24e, et en fait, théoriquement, il est même 34e, puisqu'il a changé son moteur.
Même pas, il est 39e, parce qu'il a changé son moteur et sa boîte.
Sa boîte, ah oui.
Donc il a pris 15 places.
À noter que Hülkenberg aussi a été rétrogradé de 5 places pour boîte de vitesse.
Alors c'est dire quand même que Massa, on avait suggéré à une époque l'idée que les mecs quand ils prennent des pénalités, ils partent vraiment de l'éclat d'être en 5ème place. Donc là ça veut grosso modo dire que Massa il part près du tunnel.
Ouais voilà.
Donc il voit pas les feux rouges, c'est seulement quand il voit Alonso dans ses rétroviseurs qu'il comprend que la course est partie.
C'est que Alguersuari aussi s'est lancé des stands.
Oui.
Et donc de l'autre côté, à l'autre bout, c'était...
L'Italia. Vas-y, continue, Gigi, je te laisse.
Donc Fernando Alonso, pour sa 20e pole position, la 250e pour Ferrari, en tant que constructeur, la 210e en tant que motoriste, a une moyenne de 173,280.
Oh, qu'est-ce que c'est lent.
C'est vrai, super lent.
C'était combien la pole déjà ?
Une 45-390.
Une 45 ?
Ouais.
Merde, je suis encore trop loin avec... Je fais une 47 à Singapour.
Alors une 47... Bah,
sur le peu de temps que j'ai pu boucler, hein, parce que faut les boucler hein, sur F1 2010. D'ailleurs, je salue Steph Core et Globen qui m'ont tenu compagnie pendant le Grand Prix.
Et toi, en plus, tu l'as retweeté. J'ai pas fait une piquée. Excuse-moi. Je n'ai pas fait une piquée, il faut être plus précis que ça.
Tu t'es cassé la gueule.
Oui, mais je me serais pris une porte ou un mur, ok, là, d'accord.
Tu as glissé négligemment.
Non, je me suis rétamé comme une merde sur ton lit, c'est pas pareil.
Je veux dire que Jésus était assis sur un fauteuil et qu'il a voulu se pencher pour avoir un truc, et donc le fauteuil...
Pour aller chercher la boîte de F1 2010.
Le fauteuil a légèrement basculé, et donc en fait, quand c'est des fauteuils à roulettes, dès que ça bascule légèrement, l'équilibre est foutu, le fauteuil s'est barré en couille, et Shinji s'est ramassé la tronche. Et donc sur le coup, j'ai été sympa, parce que j'ai dit « ça va, t'as rien ?» Et il m'a dit « non, ça va », il s'est relevé, et là, c'est là où j'ai été saisi par le fou rire.
Et paradoxalement, tu vois, c'était pas une chute.
Non,
tu glisses, en fait.
C'était une glissade, voilà.
Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est pas une piquée. Parce que piquée ne s'est pas rétamé comme une merde.
Oui, c'est vrai.
Ce que moi, j'ai fait. Alors, tu m'as dit une 47?
674.
Oh, bah, tu passais, oui, la Q1, hein, parce que Locke, il est en 1,50-271.
Oh, bah oui, oh, bah, facilement, alors.
Quelque chose à rajouter, sur la grille? À part le fait que, encore une fois, c'est fini l'ère des Red Bull. Enfin, c'est fini. Ça fait déjà plusieurs fois de suite où ils n'ont plus la pole.
Voilà. Bon, apparemment, Vettel s'est foiré. Même si j'ai vu, alors l'endroit où ils disent qu'il s'est foiré, j'ai vu, il perd un peu de temps.
Il fait une fichette, il perd du temps.
Bon, ça reste quand même très subtil.
Je veux dire, il y a quoi? Il y a 67 millièmes, hein. Voilà, ouais, c'est une touchette. C'est une touchette.
Mais bon, théoriquement, quand même, la Red Bull doit être capable de faire mieux.
Oui, mais la Ferrari a fait beaucoup de progrès.
Oui, est-ce la Ferrari qui a fait beaucoup de progrès ou la Red Bull qui a quelque peu régressé?
On va dire qu'elle stagne.
Oui, voilà.
On passe au top 10.
Yes.
Et tu vas pas être content cette semaine.
Oh, il y a des ex-échos.
Mais, attention, c'est des ex-échos à un point.
Ah, un point, ah. J'y crois, I believe.
Donc, ont été cités, mais ne font pas partie du top 11. S'il faut l'appeler comme ça cette semaine.
Yes.
Eh bien, il y a Rémy Alguersuari.
Non.
Eh oui.
Ah bah ça c'est parce que
tu as mis le seul 8e. En fait. Voilà, tu as été le seul à le mettre, tu l'as mis 8e, mais ça ne pas suffit.
Moi j'ai bien aimé son week-end quoi. Il a fait des bons essais. Je crois qu'à un moment donné il a été dans les 10 premiers. Je crois que c'est vendredi matin. Bah c'est la seule séance que j'ai vue. Il a été très bon vendredi matin. Enfin vendredi en début d'après-midi. Et il fait une bonne qualif, il est 11e et il fait une course discrète, mais voilà, c'est moi j'ai honnêtement, il m'a fait plaisir sur ce week-end à Alguersuari.
A aussi été cité, et j'ai envie de dire que par exemple, c'est peut-être pas par rapport à sa course qu'il a été cité, c'est Heikki Kovalainen, qui est 10e.
Ah, moi j'avais dit que je lui donnerais un point.
Qui a aussi été cité par Steph Core.
Et Fab. Car Fab, il l'a cité, mais en le mettant hors classement.
Ah oui, d'accord.
il a mis une mention spéciale, ce que j'ai traduit en une 11e place.
Oui.
On a Steph Core qui nous dit un coup de chapeau à notre pompier du jour qui tout seul a éteint sa F1 en flamme alors que bien d'autres comme moi-même, donc Steph Core, se seraient tirés à toutes jambes pour qu'elle ne leur explose pas en pleine gueule. Chapeau bas donc au Nordique qui nous prouve qu'il a bien du sang-froid. Et Fab nous disait, mention spéciale à Kovalainen qui a parfaitement illustré l'expression aujourd'hui largement galvaudée de pompier de service.
Oui, il faut, enfin, même si moi je ne l'ai pas cité, c'est vrai qu'il faut vraiment applaudir ce qu'il a fait.
Bah, ce qu'il a fait, et puis honnêtement, moi je trouvais ça tellement, tellement drôle. Voilà, je trouvais, je trouvais vraiment l'image. C'est des images que je trouve magnifiques. Voilà, c'est l'homme seul face à la machine, et voilà.
Il passe à la fumée.
Oui. Et c'est vrai qu'il y a un certain sang-froid, parce que généralement, là, moi, c'est vrai que
moi je me barre. Ah oui, alors que chacun, oui, je te barre.
Et non, il a cherché courageusement un extincteur, parce qu'il faut aller chercher des extincteurs à Singapour.
Oui. Ah,
parce que l'extincteur, il n'était pas à côté, il fallait trouver... Parce que le problème à Singapour, c'est pas trop d'avoir des extincteurs, c'est de trouver le trou par lequel peut passer l'extincteur.
Oui. A aussi été cité, hein, et lui aussi, malheureusement, ne rentre pas dans le classement, c'est Tim Woodlock, que tu as mis 9e, que j'ai mis 10e, et je vois que Iceman Air aussi l'a cité.
Oui, Iceman Air qui nous dit « Pour avoir réussi à maintenir derrière lui un bon paquet de voitures pendant une bonne dizaine de tours avec sa modeste Virgin, comme quoi quand on veut, on peut. »
Et il a été dans les points.
Il a
pas
été
très longtemps, mais c'est vrai que pour une Virgin quand même, faut quand même saluer.
Mais c'est pour ça que j'ai mis 9e devant Kovalainen, donc encore une fois, je le répète, moi c'est un top 4 plus 6, donc c'est 4 pilotes qui vraiment j'avais envie de les mettre et s'ils restent quoi, c'est 6 mecs que j'étais pas forcément très chaud pour les mettre, mais je les ai mis parce que il fallait que je les mette. Moi ce qui m'a plu en tout cas, c'est que d'abord il a bouchonné etc, mais il a joué sa chance. Voilà, il s'est dit peut-être que ça va marcher, peut-être que comme ça je vais gagner quelques places. Et c'est vrai qu'il a, au global, il a fait un bon résultat. Je crois qu'il est 15e, ou un truc dans le genre. Et en plus, je trouve que à chaque fois, il quand il s'est fait doubler, il l'a fait proprement. Voilà, c'est-à-dire qu'il a joué sa chance tout en ayant conscience aussi de ses capacités réelles. Voilà, donc il a résisté, mais sans être au-delà du raisonnable.
On passe au classement.
Mais qui sont les ex-échos?
Les ex-échos. Nous avons le pilote allemand Adrian Sutil.
Ah bah ça me fait plaisir. L'homme invisible.
Que j'ai mis 8e. Mais je t'avoue que je suis comme toi. Hein. C'est pas spécialement le type que j'ai le plus vu. Et les auditeurs aussi l'ont mis 8e.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il fait une belle remontée quand même sur la course. C'est jamais évident sur ce circuit-là. Et voilà.
Alors on a Iceman Air qui nous l'a mis 7e en disant il nous a joué son morceau préféré, une mauvaise qualif et une arrivée dans les points, gare au jour où il partira devant. On a Fab qui nous dit qu'il a mis 10e et qui nous dit j'admire le sang-froid de ce pilote et sa capacité à être régulier sur toute une course. J'en viens à me poser une question, Adrian Sutil.
Oui, j'ai vu comment ça s'écrivait, oui.
Et il nous précise, hein, dans Sutil du verbe suer, hein, oui. Et il nous précise, cette blague faisait partie des stocks d'invendus du Club 153, pour ceux qui ont coûté l'émission spéciale Belgique. Hein. Et on a Maël qui avait apparemment été tellement intéressé par la course de Sutil, qu'il s'est contenté d'écrire un 7e, et qu'il n'a mis aucun commentaire.
Ce qu'il n'y a rien à dire, tout simplement.
Non, alors pour le coup, tu vois, c'est finalement un pilote, autant au sortir de la course, je me disais, ouais, je vais le mettre dans mon top 10, et autant, en fait, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que non, il méritait pas sa place, quoi.
Oui, mais t'as trouvé qu'il y avait des pilotes qui méritaient mieux.
Bah disons que, c'est même pas que j'ai trouvé que des pilotes qui méritaient mieux, c'est que cette semaine, j'ai envie de pousser un coup de gueule, voilà. Je trouve qu'il y a 4 pilotes qui méritent vraiment d'être dans le top 10, et qu'il y en a certains que j'aurais mis si j'avais été logique. Hein, mais que j'en ai marre de mettre parce que je me sens obligé de les mettre, quoi.
Oui.
Donc cette semaine, je me suis dit, voilà, il y a quelques mecs. Généralement, je suis gentil, je les mets parce que voilà, pour être juste. Mais là, je fais un petit peu mon rebelle. Et voilà,
ça change.
Donc grosso modo, il n'y a pas Rosberg dans mon classement. Il n'y a pas Sutil aussi.
Et donc, ex aequo avec Sutil, c'est Felipe Massa.
Oh, Felipao.
Felipao. Que les auditeurs ont mis 9e et que tu as mis 7e. Et moi, enfin, moi je l'ai pas mis.
Alors moi je l'ai mis pour une raison. Indirectement, Alonso lui doit quand même une partie de sa victoire. Parce que
attention, tu rentres dans des trucs.
Non, c'est, je veux dire que tout le travail de préparation, de setup, de réglage de la voiture, d'évaluation des pneus, etc. C'est principalement Massa qui l'a fait parce que effectivement, on a fait jouer à Massa le rôle du numéro 2, quitte à changer de moteur, autant que ce soit quitte à prendre un 9e moteur, autant que ce soit un moteur pour Massa et pas un moteur pour Alonso. Donc on a fait beaucoup rouler Massa et assez peu Alonso vendredi.
Oui, il a pas eu de bol avec Glock. Enfin, il a tenté lors de la première safety car le changement de pneu.
Ouais.
Donc c'est une stratégie qui peut marcher, qu'on peut doubler. Alors oui, déjà qu'à Singapour c'est pas évident.
Oui, mais en même temps, là, je veux pas être méchant, mais il a pas eu de bol avec Glock. On part quand même d'un pilote sur une Ferrari
oui,
qui va dominer la course parce que il va la dominer face à une Virgin. À un moment donné, c'est là aussi où, voilà, moi honnêtement, j'ai récompensé Massa pour le fait que il avait fait une remontée, et que bon, c'est naturel parce qu'il remonte de le récompenser, et qu'il avait pour moi abattu beaucoup du boulot qui a profité à Alonso en course. Maintenant, il s'est fait marcher dessus encore une fois.
Par Glock, Sutil et Hülkenberg d'ailleurs, c'est pas que Glock.
Il a strictement rien monté, aucune volonté de dépasser. Voilà, encore une fois, c'est pas comme ça qu'il va gagner ses galons de numéro 1 bis chez Ferrari, c'est pas possible.
Non.
Alors du côté des auditeurs, on a Fab qui nous l'a mis 9e et qui a dit une stratégie qui aurait pu être plus intéressante s'il n'avait pas été englué dans le trafic. Tout à fait vrai. Et Steph Core qui lui l'a mis 6e et nous dit parti du fond de grille, il nous fait une belle course digne de sa F1 et effectue une très belle remontée. Loin de se démotiver, il tient son rang de façon magistrale. Voilà, je suis un peu plus partagé sur ce que dit Steph Core. Déjà digne de sa F1.
Théoriquement,
il peut quand même faire plus, même si effectivement c'est difficile de dépasser à Singapour. Il y a quand même des zones où on peut dépasser, où on peut quand même théoriquement, sur une Virgin qui accuse autour 2-3 secondes de retard, on peut quand même théoriquement penser que dans une ligne droite...
En même temps, Sutil et Hülkenberg non plus n'ont pas réussi à passer de Glock.
Oui, mais Sutil et Hülkenberg, ils n'ont pas une Ferrari, quoi.
Oui.
Alors oui, c'est peut-être que le plus dur pour lui, c'était de dépasser Sutil et Hülkenberg. Mais après tout, c'est quand même aussi un pilote Ferrari. C'est quand même. Et puis il a plus rien à perdre.
Ah là, non.
À la limite, autant qu'il fasse foutu pour foutu, autant qu'il fasse qu'a fait Kubica en fin de course. Et voilà, c'est foutu pour foutu. De toute façon, je suis pas dans les points. Je vais pas en marquer ou l'écurie va pas en marquer. Bon bah voilà, foutu pour foutu, je prends des risques. Et au moins, il a l'initiative. Là, il a été super passif derrière, quoi.
Même si au final, par rapport à sa position de départ, c'est pas mal du tout.
Oui, non, mais voilà, c'est ça.
C'est vrai. C'est bien quand même, en fait. Mais c'est pas assez. C'est ça, en fait, le drame de Massa. C'est qu'il fait des trucs bien.
Oui, mais
c'est pas assez.
Non, mais même encore une fois, oui, c'est bien, mais il y a deux safety cars. Il y a 6 ou 7 abandons. Je crois d'ailleurs que c'est un record cette saison. Peut-être même 8 abandons, si je me trompe pas. Donc oui, c'est bien. Maintenant, il a aussi des circonstances de course qui sont avec lui.
Passer la 9e place. Avec quelqu'un qui était juste devant Massa, d'ailleurs, pendant un moment.
Hulk.
Ça veut dire que l'incroyable Hulk est 9e.
Ah.
Eh oui. Et 9e grâce à toi.
Oui. Grâce à moi.
Parce que tu l'as mis 5e.
Oui, et que personne l'a mis, c'est ça.
Et voilà, personne l'a mis.
Eh ben, Hülkenberg, honnêtement, je l'ai mis 5e, je l'ai mis premier des 6 autres, en fait. D'abord, j'ai bien aimé sa course. Bon, il a fait des erreurs, il a été super optimiste, même très optimiste sur son déplacement sur Petrov, qui fait qu'il a envoyé Petrov dehors. Maintenant, honnêtement, il a tenu le coup sur un circuit qu'il connaît pas, en comparaison à Petrov qui a été un peu moins bon, qui a fait des erreurs. Hülkenberg a pas fait de grosses erreurs, à part en course, mais ça en course, voilà, des erreurs en course avec la fatigue, etc., c'est normal.
Qui est renforcé en plus à Singapour. Là, tu nous parlais en début de saison, je me rappelle avec Petrov, du fait que justement, parfois des courses vraiment longues. Alors là, c'est l'exemple même.
Il y a 2 courses par week-end, mais c'est des courses de 40-45 minutes, enfin 1 heure maximum. Là, c'est une course de 2 heures avec une humidité record, une chaleur record. Donc, et en plus, j'y reviendrai plus tard, mais il a été volé sur sa pénalité.
Ah oui, donc il s'est... Alors, il y a d'abord eu une pénalité.
Il a été pénalisé parce qu'il avait gagné, il avait tiré avantage d'un passage hors piste pour gagner des places, ce qui est vrai. Et du coup, Force India, qui était un peu en colère, a porté réclamation en disant « Oui, mais ça aussi, Hülkenberg l'a fait. » Sauf que Hülkenberg l'a fait, oui, il l'a fait au départ, et il l'a fait en ayant deux roues à l'intérieur de la piste, ce qui n'est pas finalement prendre avantage. Donc, pour moi, sur ce coup-là, il a été totalement volé de la part de Force India.
Il faut voir qu'entre Force India et Williams, là, la fin de saison, ça va être tout tiré, non ?
Bah, disons qu'entre l'égalité et récupérer, je crois, 4 points d'avance, ou 3 points d'avance, et oui, Force India a choisi, quoi.
Il y a la 6e place en jeu.
Oui, voilà. Et l'argent qui va avec, et je sais que Force India...
Surtout, oui.
Non, j'étais seul à mettre Hülkenberg. Ah non, il y a un auditeur qui l'a mis.
Ah oui, il y a des auditeurs, oui.
On a Maël. Pareil, elle a mis 6e et elle a pas eu grand chose à dire. Et on a Iceman Air qui dit, il poursuit sa progression constante en marquant un nouveau dépôt.
On nous dit toutes les semaines, mais c'est vrai que Hülkenberg, très belle progression.
Ouais. Mais en même temps, il se fait aussi une petite réputation quand même. Hein.
Ouais. On passe à la 8e place. Et vu qu'on a parlé de l'un, faut qu'on parle de l'autre. Puisqu'on a parlé de Hülkenberg, on va parler de Barrichello.
Rubinho,
que j'ai mis 9e, que les auditeurs ont mis 10e, et que toi, Dino, tu as mis 6e.
Je me demande pas de raison. Bah, non, oui, ah oui, j'ai une raison. Ah, d'ailleurs, je l'ai mis quand je t'ai envoyé le mail. Je te l'ai mis comme ça, au cas où, pour que tu me rappelles. J'ai mis 6e, juste pour le symbole. Il s'est qualifié 6e.
Ah oui.
Il a fini la course 6e. Et dans mon classement, dans mon top 10, il ne devait être que 6e. Je pouvais pas le mettre plus bas.
Tu voulais quoi? Tu voulais faire le chiffre du diable?
Non, juste parce que c'est vrai que ça fait le chiffre du diable. Barrichello d'ailleurs, dont je vous conseille, alors vraiment je vous le conseille, le Twitter. Parce que alors, vous vivez la vie de Rubens Barrichello. Vous achetez F1 2010 et vous vous abonnez au Twitter de Rubens Barrichello, vous vivez dans la vie d'un pilote de Formule 1. Vous avez Barrichello qui, par exemple, sur son Twitter, vous met des photos.
Il tweet tout le temps, en fait.
Tout le temps, et il y a des photos de lui avec ses gosses quand il est en train de jouer dans la salle à manger. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas des photos de lui aux toilettes, quoi. Pète le bonheur, ce mec.
Ouais, quand on le voit, c'est vrai qu'on voit que c'est quelqu'un qui va super bien dans sa tête.
Voilà, il pète le bonheur et ça se ressent en course, quoi.
Il fait des bons trucs, quoi. Sur sa Williams et tout, cette année, on s'attendait pas forcément à grand chose. Et il fait des trucs super sympas. Alors que oui, il est presque aussi vieux que Schumi.
Mais c'est vraiment un peu que je redécouvre cette saison. C'est pour moi la révélation de l'année, c'est Rubens Barrichello. Vraiment, je l'attendais pas aussi performant et surtout sur une Williams. Je me suis dit voilà, il va mourir à petit feu chez Williams. Et non, il a une deuxième jeunesse, il a une deuxième vie, il est leader d'écurie.
Et il arrive même à tirer Williams vers le haut.
Oui, c'est franchement.
On passe à la 7e place.
Oui.
Avec un pilote qui n'a pas fini la course.
Oh. Et donc un pilote que je n'ai pas mis.
Que tu n'as pas mis.
Généralement, c'est moi qui mets les pilotes qui finissent pas la course, je les mets dans les points.
Non. Eh oui. Les auditeurs l'ont mis 7e, je l'ai mis 7e. C'est celui qui aurait pu finir 4e, ou peut-être 3e,
oui,
de la course. C'est Lewis Hamilton.
Oui. On va peut-être commencer déjà par dire ce qu'on dit nos auditeurs sur Lewis Hamilton. Oui. Donc là, nous avons deux auditeurs qui ont cité Hamilton dans leur classement, en plus de toi, Shinji. Nous avons Iceman Air qui l'a mis 7e, en nous disant « car il était malgré tout en lutte pour le podium et qu'il limitait très bien les dégâts. Peut-être a-t-il été un peu trop optimiste sur un Weber assez coriace, tandis que Fab l'a placé 5e en disant « parce que la chance ne sourit pas tout le temps aux audacieux ».
C'est vrai, hein, s'il n'y avait pas eu ce pépin, il finissait au pire 4e.
Oui.
Avec, franchement, une stratégie de la part de McLaren...
Venu d'ailleurs.
Je veux dire, alors que justement, il était sous la menace de Weber, il fallait absolument qu'ils aient un maximum de temps par rapport à l'arrêt au stand. Les pneus se sont écroulés. Et non, chez McLaren, oh non, les pneus s'écroulent, on perd 2 secondes au tour. Non, on les fait pas rentrer.
Ouais.
C'est, je sais pas. Là, la stratégie chez McLaren, pourtant, ils s'y connaissent. Mais là, ils étaient ailleurs.
Honnêtement, McLaren, c'est une bonne équipe d'un point de vue stratégique, mais il y a quand même ces dernières années plusieurs exemples. C'est pas la seule, mais quand même plusieurs exemples de moments de ils font des mancelles, quoi, ils pètent les plombs, quoi. Ils oublient complètement ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils ont tout géré par ordinateur, ils ont toute leur stratégie à l'avance. Ils sont incapables de s'adapter, ou alors vraiment ils se sont trop bien fait aux règles cette saison. D'ailleurs, ils ont compris qu'il y avait plus de stratégie. Donc maintenant ils font plus de stratégie, ils ont viré tous les stratèges et ils sont plus prêts à assumer les réalités de la course, quoi.
À noter quand même ce joli coup quand même quand Weber se fait gêner, c'est par Glock ou Di Grassi, parce que c'était une Virgin.
C'est par Di Grassi.
Par Di Grassi, et il en profite. Il avait raison d'en profiter.
Oui.
Franchement.
Ah bah oui, oui.
Et ça aurait pu passer s'il n'y avait pas eu... En plus, il prend le virage un tout petit peu large, mais il revient, et puis bon, il y a cet incident...
Mais c'est la question, alors c'est la grande question. Shinji, si tu avais été commissaire, Suken, si tu avais été Danny Sullivan, quelle décision... Parce que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse maintenant, faudrait qu'on se mette à la place des commissaires. Quelle décision aurais-tu prise?
J'aurais fait incident en course. Bon, clairement, Hamilton, c'est pas de sa faute.
Oui.
Hein, puis il est sur l'extérieur du virage, donc c'est pas de sa faute. Quant à Weber, il y a plus forcément beaucoup de place, hein, pour passer au moment où il touche Hamilton. C'est clair que il a raison aussi, Weber, d'essayer de redoubler tout de suite Hamilton.
Bah, il le sait que c'est tout de suite ou jamais, quoi.
C'est tout de suite ou jamais, donc on peut pas lui reprocher ça non plus. Et sur la position même de la voiture, quand il touche Hamilton, Weber, il a déjà les deux roues sur le vibreur.
Ouais.
Donc c'est-à-dire qu'il peut pas aller beaucoup plus à gauche.
Mais c'est
déjà à gauche, il fait un tour non valide.
Justement, c'est le reproche que je fais. Je partage
il est pas forcément très très loin du mur. Donc est-ce que Weber pouvait plus aller à gauche? Je suis pas certain.
Mais disons qu'effectivement, il aurait peut-être pu freiner. En tout cas, ouais. Ralentir un peu et le laisser passer. Bon, maintenant, c'est pas le genre à se laisser dépasser comme ça. Et c'est justement là où moi je vais diriger ma critique vers Hamilton. Même si, honnêtement, j'aurais été commissaire, j'aurais sans doute déduit à l'incident de course et j'aurais peut-être même pénalisé Weber.
On sent quand même que s'il y avait un à pénaliser, ça aurait été plus Weber, voilà, qu'Hamilton. Ça,
mais
c'est clair.
Je trouve que on a assisté à un incident qui pour moi est symptomatique de Lewis Hamilton et qui est un reproche que je lui fais depuis le Grand Prix d'Italie 2008, à savoir que Hamilton, il a tendance à oublier que il n'est pas seul sur la piste, et là il a fait son dépassement sur Weber et une fois qu'il était devant,
il a cru que c'était terminé,
sauf que non, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il est en face de son rival au championnat, qu'il va pas se laisser dépasser comme ça, d'autant plus que clairement Weber a pris un pari stratégique pour aller chercher le plus de points possible, la victoire ou le podium, et que donc voilà, il allait forcément avoir résistance de la part de Weber. C'est pas Di Grassi qui double là. Là, c'est Weber, c'est la meilleure voiture du plateau, le pilote leader du championnat. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il te laisse tranquille. Et Hamilton, non, il pique vers l'intérieur. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est qu'il s'est pas plaint derrière. Donc
non. Et il était pas content sur le coup.
Mais je pense qu'il était surtout pas content contre lui-même.
Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Ouais. Ça fait deux bulles de suite, hein.
Voilà.
Quand même.
Et pour, malheureusement,
pour le championnat.
Voilà, lui qui a, honnêtement, faut le souligner, il a fait des progrès énormes pour garder à la fois son aspect attaquant, mais en même temps jouer un peu plus le button, quoi, se buttoniser un petit peu, être un peu plus stratège, être un peu plus patient, etc. Là, ça fait quand même deux grands prix où par la précipitation, eh ben il fait des boulettes, quoi. Et là, je dis honnêtement, hein, à Singapour, il y a la responsabilité pour moi serait plutôt de la part de Weber, mais il y a quand même une boulette de la part de Hamilton qui a pensé trop vite que c'était terminé.
Hamilton qui, sans dire qu'il fait une croix sur le titre, mais qui dit que ça, comment dire, ça va,
il
va peut-être moins se focaliser.
Il applique la stratégie que j'avais conseillé à Sébastien Vettel d'appliquer, c'est-à-dire ne plus penser au titre, se sentir libéré, et lui c'est ce qu'il a dit. Il a dit voilà, maintenant le titre je n'y pense plus. Je pars du principe que c'est plus jouable, et en fait, je vais tellement être libéré que, peut-être que je vais sortir les performances, un peu comme Alonso, quoi.
Hamilton est loin d'avoir perdu le titre.
Et on l'a vu, hein, avec Vettel qui revient un petit peu, là, en force, après avoir touché du doigt la fin de ses espoirs de titre, et pareil pour Alonso, dont on se rappelle, même nous, hein, même moi le premier.
Oui.
Qui avait dit que les espoirs de titre d'Alonso s'étaient terminés, même si Alonso lui a toujours dit qu'il allait se battre pour le titre, mine de rien, c'est aussi un exemple que quand t'es moins dans la course du titre, t'es plus libéré, tu prends plus de risques, et ça passe.
Quelque chose à rajouter sur Hamilton?
Non, est-ce que j'ai lu les phrases des auditeurs? Oui, je crois, non.
Non, tu ne les as pas lues.
Je les ai pas lues. Non, c'est pas vrai, Shinji. Ne me dis pas
ça. Tu ne penses pas aux auditeurs?
Oh, salaud. C'est faux, je les ai lus. Alors ça, pour la peine, Suzy, ce petit coup de vicieux, ça va rester.
On passe à la sixième place.
Oui, il est temps.
Enfin, un pilote, j'ai presque envie de dire que s'il est devant Hamilton, c'est uniquement parce que lui a fini la course. C'est Button. Je l'ai mis sixième, les auditeurs l'ont mis sixième. Moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est pourquoi il a pas fait de tentative avec les pneus. parce qu'on voit bien donc Weber a fait le coup lors de la première safety car, que Ferrari a décidé de le faire avec Massa, hein, logique de ne pas faire la même stratégie sur les deux voitures, et là encore, McLaren n'a pas tenté le coup.
Bah, je pense peut-être
qu'ils avaient moins l'occasion, mais est-ce qu'ils auraient pas pu justement mettre leurs œufs dans différents paniers et essayer de faire quelque chose avec Button?
Tout à fait.
Vu que justement il était derrière. Ça que je pense surtout à Button plus qu'à Hamilton.
Je pense honnêtement que McLaren en ce moment ils sont en mode titre constructeur.
Ouais.
Donc bon, effectivement.
Faut quand même que les voitures elles arrivent devant.
À Singapour finalement avoir les deux pilotes qui suivent au quatrième et cinquième place, c'est pas un mauvais résultat. En tout cas ça limite les pots cassés, ça permet aussi de mettre sur une dynamique etc. Je sais pas, hein, je dis ça mais. C'est vrai que c'est, en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que Button n'ait pas pris, lui, la responsabilité de se dire, mais écoutez, je
rentre.
Faire ce qu'a fait Weber.
Mais finalement, une course, à la Rosberg, j'ai envie de dire, pour Button. Quand même.
Et Button, il est à son, il est peut-être un petit peu à son niveau, quoi, hein.
C'est lui, bon, il est le dernier des cinquièmes. Lui aussi, hein, il a encore une chance de titre. Malgré tout, j'ai pas l'impression qu'il ait la dynamique, pour y aller cette année en fait.
Mais moi ce qui m'étonne c'est que je trouve on l'a vu à Monza très percutant derrière devant et derrière Alonso. Il a pas fait d'erreur en rien. Et je suis toujours étonné dès qu'il est confronté en direct à Hamilton, bah c'est moins percutant, il est toujours un peu plus derrière alors qu'on l'a vu.
Il n'y aurait pas quelque chose de psychologique
face à Alonso quand même, il a pas eu peur quoi, il a pas fait une seule erreur en course alors qu'Alonso lui mettait une pression du feu de dieu et même quand Alonso est passé devant, il est resté très près. Alors certes, c'est un circuit qui convenait plus à la McLaren que Singapour. Mais tout de même là, face à son coéquipier, au moins il se devait de rester proche quoi. Donc c'est moi c'est une énigme Button. La raison pour laquelle je l'ai pas mis.
Ouais, c'est vrai, tu l'as pas mis.
Mais tous les auditeurs l'ont mis, de Fab qui l'a mis quatrième en nous disant course discrète mais solide avec une voiture nettement en dessous quand même, en passant par Steph Kerr qui l'a mis septième, dépassé par les performances des Red Bull et des Ferrari, il tient son rang sans pour autant faire une course brillante. En allant jusqu'à Iceman Air et Maël qui nous l'ont mis huitième, Maël qui nous dit mauvaise stratégie dans les pneus, qui n'est pas spécifiquement, enfin oui, qui est du fait de Button, et Iceman Air qui nous dit totalement transparent, il sauve toutefois les meubles en finissant au pied du podium.
Oui.
Et il fait lui aussi une bonne opération par rapport à son coéquipier.
C'est surtout Hamilton qui fait une mauvaise opération. Il revient d'un coup, il y a 5-6 points d'Hamilton seulement. Alors que pendant tout l'été, il a perdu des points sur Hamilton.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que il se rapproche maintenant. Est-ce que c'est pas juste s'en rapprocher pour mieux le voir filer sur les quatre dernières courses?
On passe à la cinquième place. Ça va te faire plaisir.
Ah.
C'est Nico Rosberg que j'ai mis cinquième, que les auditeurs ont mis cinquième. Et toi, j'ai envie de dire pas vu, pas pris.
Ah mais c'est même plus que ça. C'est même pas vu, pas pris.
C'est t'en as marre.
J'en ai marre d'avoir à le mettre parce que je l'ai pas vu et que pourtant il a fait une bonne course quoi. Non, il a pas fait une bonne course. À part dépasser Barrichello, il a rien fait. C'est un bon sur une piste sur circuit urbain. C'est un très bon pilote. Il domine son coéquipier.
C'est un bon à Singapour.
Okay. Oui, c'est un bon. Bah, pour moi, il est vainqueur à Singapour. Enfin, je l'ai dit sur le Twitter. J'ai souligné que c'était pour moi la première victoire méritée d'Alonso à Singapour, et que par conséquent, automatiquement, moi, je pense sincèrement que Rosberg, il a déjà une victoire à son compteur, même si elle est pas officielle. Pour moi, Rosberg, il a gagné à Singapour en 2008. Mais voilà, moi, j'en ai ras-le-bol de. Ça fait, on en est à la 15e Grand Prix. J'en ai ras-le-bol à chaque fois de dire. Ah oui, mais Rosberg, bon, je l'ai pas vu, mais quand même,
il
a fait une bonne course.
Mais il se classe bien à chaque fois. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Je veux dire, c'est pas de sa faute si on le voit pas.
Il se classe bien. Honnêtement, il se classe bien il est au niveau de la Mercedes. Enfin, on peut.
Non, mais on ne le met pas non plus deuxième, troisième, voire premier. Mais... On le met souvent quatrième, cinquième, sixième, c'est ces niveaux-là. C'est les niveaux de la Mercedes.
Oui, mais il fait rien de plus avec la voiture que, entre guillemets, bien la conduire. Enfin, il transcende pas la voiture. Moi, j'en viens même à me dire, est-ce que, finalement, Michael Schumacher est un bon barème? Est-ce que, finalement, Michael Schumacher qui fait un mauvais retour, est-ce que c'est une bonne référence pour dire que Rosberg fait sa meilleure saison? Je suis pas sûr. Voilà, et moi honnêtement, c'est vrai que là j'arrive, je suis fatigué d'avoir à dire, ah, il a fait une course à la Rosberg. Et d'ailleurs, on trouve plus rien d'autre à dire sur Rosberg.
Bah
à
non.
part, il a fait une course à la Rosberg.
Mais après, c'est la réalisation. Enfin, non, on voit bien.
Non, faut arrêter de dire c'est la réalisation. Oui, la réalisation, elle le montre pas. Pourquoi elle le montre pas? Parce qu'il fait rien de spectaculaire en piste. Parce qu'il est pas en train de dépasser quelqu'un. Parce qu'il est pas en train de se défendre. Parce qu'il fait rien. Non, mais c'est ça, c'est le truc.
Oui.
On peut accuser la réalisation, mais il ne fait rien en piste qui permette, qui fasse dire au mec qui a le bouton sur la caméra, ah oui, faut peut-être qu'on monte 10 secondes de Rosberg. Pendant le Grand Prix, il a eu le droit à 10 petites secondes. Je sais même pas ce qu'il a fait pour mériter 10 petites secondes. Oui, c'est bien, c'est vrai que c'est bien, il est, je sais pas combien il finit cinquième, mais il a jamais inquiété les McLaren, il a jamais été véritablement inquiété par Barrichello. Voilà, le vrai niveau de la Mercedes, c'est le sien. Maintenant, faut qu'il arrive un petit peu à faire, même si la voiture est plus développée, etc., faut qu'il arrive à faire des coups d'éclat. Malheureusement, pour le moment, cette année, en dehors de battre Michael Schumacher, il y a aucun coup d'éclat de la part de Rosberg. Aucun.
Et qu'ont dit les auditeurs sur Rosberg?
Alors, les auditeurs. Nous avons Fab, qui l'a mis sixième, et qui nous dit, pour changer un peu, on va dire qu'il s'agit d'une course sans faute et sans éclat de la part du jeune Allemand. Voilà. Voilà, derrière que ça, pour changer un peu, hein. Et pourtant, on dit la même chose derrière. Nous avons Iceman Air et Steph Core, qui l'ont mis cinquième, tous les deux. Iceman Air qui nous dit, comme toujours, il place sa Mercedes à une place honorable, alors qu'elle est loin de le valoir, ce résultat en performance pure. Et on a Steph Core, qui dit, Rosberg, alias Casper le fantôme, pas vu plus de 10 secondes en course, mais encore une très très belle course. Je l'attends vraiment dans un top team. N'y est-il donc déjà pas, Steph Core?
Mercedes, quand même.
Considéré comme un top team. Car, et c'est quand même l'écurie championne du monde en titre, car il réalise des prouesses à chaque course.
Prouesses, c'est peut-être un peu exagéré, quand même.
Et on a Maël qui nous dit, attention, je dis suspense, une course à la Rosberg. Et c'est pas une critique envers Maël, parce que la manière dont je... Non, c'est juste que non. C'est petit qu'on verra Rosberg, quoi.
Passons à la quatrième place. Et la quatrième place, c'est pour Robert Kubica, que j'ai mis quatrième, que tu as mis quatrième, que les auditeurs ont mis quatrième. Donc, il finit quatrième.
Voilà.
Il finit pas la course quatrième, d'ailleurs.
Non, il finit la course sixième ou septième, je crois.
Eh ben.
Le quatrième, c'est Button. Le cinquième, c'est Rosberg, Barrichello 6, donc il est quatrième. Il est septième.
C'est pour sa fin de course.
Bah oui, c'est hein, pour ça.
Donc oui, on peut doubler à Singapour.
Quand on a des... Je préfère lire les commentaires des auditeurs avant. Je pense qu'on pourra ouvrir le débat. Alors, les auditeurs, nous avons Iceman Air qui l'a mis quatrième et qui a dit à propos de Kubica, pour avoir mis le feu comme Kovalainen lors des derniers tours et réalisé une incroyable série de dépassements, il a littéralement déposé ses adversaires du grand art. On a Fab qui ne l'a mis que septième. Quelle fin de course, dit-il. Et on a Maël qui nous l'a mis cinquième en disant, quelle remontée en fin de course. Et enfin, on a le fan numéro un du SAV de Robert Kubica, Steph Core, qui l'a mis quatrième, tout comme Iceman Air, et qui nous a laissé un long commentaire. En même temps, il a raison, faut qu'il en profite. On parle tellement peu de Robert Kubica.
Oui.
Et qui nous dit, obligé de rentrer pour un deuxième changement de pneus suite à une dégradation prématurée de son ancien train, et repartant en 13e, il nous fit une remontée hallucinante, plus 6 places, et enflamma la piste en fin de course, tout comme Kovalainen, pour finir à une magnifique 7e place. Alors, j'entends déjà Dino me dire, mais il avait des pneus frais, c'était facile, il avait un gros avantage sur ses concurrents, blablabla, blablabla. Ce à quoi je répondrai, soit, il avait des pneus frais, mais il a une très belle paire de coronets pour prendre tous les risques et ne pas gâcher sa course sur le coup du sort d'un train de pneus pourri. Et moi, monsieur, je dis bravo! Je connais peu de pilotes qui auraient pris autant de risques que lui en fin de course pour remonter ainsi. Ok, il avait un avantage, mais encore faut-il avoir le mental et le courage de l'exploiter, et on ne peut pas lui renier cela. Et c'est pour cela que je le place si haut dans mon top 10, en quatrième, pour qu'ainsi tous les pilotes de F1 qui écoutent le SAV, nous le savons, tous, se sentent inspirés par une telle preuve de courage et de talent. Bon d'accord, je crois que je m'enflamme un peu, comme Kovalainen, mais sérieusement... Je pense que pas mal de pilotes auraient assuré, peut-être tenté un ou deux dépassements, mais je ne pense pas qu'ils en auraient fait autant que Robert Kubica ce week-end. Et là, je dirais, Steph Core, mais il avait des pneus frais.
Mais 6 places en 10 tours.
Mais il avait des pneus frais. Non mais, Non mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Tefcore. Oui, faut-il, il a les pneus frais, c'est un avantage. Encore faut-il après le concrétiser. Maintenant, faut quand même reconnaître, c'est pas minimisé. Je l'ai mis quatrième aussi, hein, donc.
Il double Alguersuari, Buemi, bon, double Petrov.
Oui.
Massa, Hülkenberg et Sutil.
Non, il double Massa.
Oui.
Non mais c'est pas au nombre de dépassements qui compte, c'est qu'il faut aussi dire aussi que les mecs qui sont là avec des pneus, que c'est ce groupe là, c'est quand même le groupe des mecs qui ont changé au premier ravitaillement.
Ouais.
Massa, il a changé ses pneus en tout début de course. Tout le monde a changé ses pneus dès la première safety car. Donc c'est déjà quand même des mecs qui ont des pneus qui ont facilement 30 tours. Alors que lui, il a des pneus neufs. Bien évidemment que les mecs, ils vont pas défendre leur place bec et ongles, ils vont pas prendre des risques de se foutre dehors, sachant que lui, il est quasiment une seconde plus vite que autour, si ce n'est pas deux, et que, quoi qu'il arrive, il va les dépasser s'il a envie, ou sinon ils vont se cartonner. Donc, oui, il y a du mérite à faire ces dépassements, etc.
En maintenant, plus, on est quand même dans un circuit urbain.
Oui, non mais...
Voilà.
Un circuit urbain.
C'est pas forcément... Oui, la piste est très large.
Il reste quand même suffisamment large, Shinji. Oui. Voilà. Mais je cherche pas à minimiser le... Voilà, je dis juste... Faut pas non plus en faire le héros de la course, quoi. Il a gagné des places. Maintenant, il faut aussi regarder un peu dans le détail pourquoi il a gagné ses places. Parce qu'il avait des pneus frais, parce que les autres avaient conscience de ce phénomène-là, et plutôt que d'aller chercher le diable et d'être bête, bah ils l'ont laissé passer et reprendre sa place. Et parce que Singapour, même si c'est un circuit urbain, reste suffisamment large. Maintenant, c'est vrai qu'il faut reconnaître que il faut aller les chercher. Et
c'est des pilotes en plus qui ne jouent pas le titre.
Voilà.
Il était tombé ne serait-ce que sur un pilote qui jouait le titre, je pense que même en étant plus rapide, il aurait eu beaucoup plus de mal à doubler.
Et maintenant, c'est vrai qu'il faut reconnaître que, comme le dit Steph Corr, pas beaucoup, je parlais tout à l'heure de Massa, Massa, ça, il l'aurait certainement pas fait, il se serait découragé. Et lui, non, et voilà, il arrive, il a un pneu, quasiment crevé, il doit changer de pneu, il change de pneu, et puis il est en mode toute attaque.
On passe au podium. Tu es prêt?
Bah le podium je le connais, hein. Même si c'est pas le mien, je sais d'office que c'est pas le mien.
Toi oui, c'est vrai que... En troisième place, le pilote australien Mark Webber, que j'ai mis troisième, que les auditeurs ont mis troisième. Et toi Dino, tu as décidé original, même si ça se comprend tout à fait, tu l'as mis deuxième.
Oui, et j'ai enfreint une de mes règles d'or.
Ah bon?
Parce que j'ai toujours dit que quand des pilotes dominent la course, quand un duo ou un trio de pilotes domine la course, je me fais un devoir de ne pas les changer. Voilà, je n'aurais pas trouvé logique, par exemple, à Monza, de retirer Button de la deuxième place pour mettre un autre deuxième, quoi. Parce qu'il a été sur une autre planète en même temps qu'Alonso. De la même manière, là, à la base,
t'as fait changer d'avis.
J'avais pas envie de retirer Vettel à la base. Je me disais voilà, il a dominé la course avec, ils nous ont fait un super spectacle. Et pourtant. Moi, cette année qui me plaint énormément de l'absence totale de stratégie dans ce championnat, qui d'ailleurs en a rendu certains complètement neuneux, regardez pas mon bras qui pointe en direction de Woking en Angleterre, là on a quand même le leader du championnat qui fait un pari stratégique. Voilà quoi, enfin moi j'ai trouvé ça, dans une saison que je trouve fade d'un point de vue stratégique, là on a un mec qui a pris une option stratégique quoi. Et quelque chose de spectaculaire. Et honnêtement, moi, ça m'a plu, quoi. Et puis, c'est pas le mec qui a fait l'épicier. J'avais reproché un peu en Italie de dire, il avait peut-être un peu fait l'épicier, il avait pas forcément beaucoup attaqué Hülkenberg, etc. Là, il a d'abord fait ce pari-là, derrière, il a été chercher Hamilton au risque, lui, de se sortir. Parce que là, ça a été à sa faveur. Et c'est Hamilton qui a abandonné, mais il pouvait très bien, lui, se sortir. Et voir Hamilton continuer, ou encore voir les deux abandonner et les autres qui revenaient sur lui, il a pris des risques, il a été en mode toute attaque, et ça m'a rassuré, finalement.
Il a fait un pari, quand il l'a fait, on a même parlé d'une possible victoire, parce que tant qu'il restait à moins de 20 secondes, il y avait quand même sa chance, peut-être même que sur un autre circuit, il aurait peut-être pu rester et jouer la victoire, là, bon, c'est vrai que...
Bon, sur un autre circuit, il aurait pas pris ce pari-là.
Ouais, c'est vrai.
Il l'aurait pris, mais il n'aurait pas été le seul.
Non, voilà, il n'aurait pas été le seul. Et puis il a bien été aidé par la dégradation des pneus des McLaren, parce qu'à un moment, on pensait qu'il pourrait peut-être plus être quatrième, cinquième derrière les McLaren, qui marchaient bien, et puis pouf, elles ont eu ce problème, troisième place, quoi.
Bah clairement.
Et en effet, comme tu dis, il est leader du championnat, donc lui pouvait se permettre de moins risqué.
Voilà.
Moins, parce que de toute façon, vu qu'ils sont 5 et même quand t'es en tête, va falloir risquer des choses. Il a tenté. C'est un coup de pari. Et c'est un pari qui a marché, quoi.
Ça restera dans l'histoire de cette saison, quoi. Il a pris un pari à Singapour, un pari qui peut très bien être gagnant. Ça sera peut-être pour lui décisif pour le championnat.
C'est comme peut-être un pari avec les... C'est comme souvent avec les paris, hein. C'est, si ça marche, t'es un génie. Si ça marche pas, tu passes pour un con.
Voilà.
Mais faut l'oser, faut oser le pari. Donc même quand ça marche pas, faut quand même le saluer. Là, pour le coup, ça a marché.
Et là, on comprend pourquoi Ferrari. Fait de l'œil, enfin même plus que de l'œil, hein, ils alignent la planche à billets pour récupérer l'ingénieur stratégique de Weber.
On a parlé de l'incident, donc on va pas y revenir. Qu'ont dit les auditeurs sur Weber?
Alors les auditeurs, c'est quasiment un troisième place unanime, sauf Safcore qui l'a mis comme moi deuxième en nous disant un pari risqué mais payant qui lui vaut un beau podium. Cette tactique intelligente et courageuse m'a plu. Là encore une fois, je pense qu'il y a une promotion à la stratégie de la part de Safcore. Et donc Iceman Air, Fab et Maël l'ont mis troisième. Iceman Air qui nous dit une nouvelle fois, il a très bien géré sa course et en a encore profité pour augmenter son avance grâce à un pari osé mais bien joué. Quant à son accrochage avec Hamilton, c'est 50-50, dirons-nous. Fab nous dit un choix audacieux qui est récompensé par un podium, chanceux malgré tout. Et Maël qui nous dit belle course, stratégie audacieuse. A-t-il eu de la chance, Weber?
Je dirais un peu oui sur la dégradation des pneus des McLaren.
Ouais.
Ça oui. Parce que
et sur son accrochage avec Hamilton.
Et sur son accrochage avec Hamilton, il a eu de la chance.
Et tu sais ce qu'on dit des mecs qui ont de la chance, hein.
Les champions sont aussi ceux qui attirent la chance.
Peut-être.
Il est toujours leader du championnat.
Oui.
Ça a beau être serré, faut pas l'oublier, ils ont beau être sains, ils ont beau être serrés, il y en a un qui est premier devant les autres, et pour l'instant c'est toujours Mark Webber. Ouais. Sachant que c'est vrai que des trois, Button, on peut commencer à se poser des questions.
Oui.
Et Vettel, c'est toujours le problème de chez Red Bull, quoi. Je veux dire, il faudra bien ils le feront pas. Parce que, bon, ils pensaient pas que ça se passerait comme ça.
Pourtant, ça serait le moment.
Si jamais ils le faisaient, franchement, si jamais ils le font, ils gagnent le titre.
Bah, honnêtement, même là.
Je veux dire, avoir un équipier de luxe numéro 2 qui s'appelle Sébastien Vettel, voilà.
Même là à Singapour, enfin je veux pas être méchant, mais tu demandes poliment, tu fais comprendre poliment à Vettel qui doit s'incliner devant Weber, et ben Weber il prend 3 points de plus, alors on va dire oui c'est 3 points, etc. Oui mais ça fait 14 points d'avance et 23 points d'avance. Oui. Ça devient une marche qui commence à être quand même sympa sur Alonso, qui est sous la menace d'un 9e moteur, et sur Hamilton. Il a 25 points d'avance sur Button et sur Vettel, donc c'est honnêtement... Oui, c'est dans ce genre de situation qu'on se dit il faudrait peut-être choisir et qu'on se dit ouais, il y a peut-être que 3 points de différence, mais les 3 points ils valent quand même beaucoup, quoi.
Alors puisqu'on parle de Vettel, on peut venir sur son cas parce que il a fini deuxième du classement.
Oui.
Hein. D'ailleurs, donc tout le monde l'a mis deuxième, sauf toi Mignon qui l'a mis troisième puisque t'as mis Weber devant.
Et vous me connaissez suffisamment pour savoir que ça m'a coûté.
Ouais. Il a quand même été le seul dans le rythme d'Alonso. Il est même revenu pas très loin. On aurait même pu frôler une fin de course extrêmement cocasse, parce qu'il était tellement près que, tu sais, à un moment, lors de la ligne droite d'arrivée, Alonso, ouais, comme d'habitude, il a fait son, tu sais, je passe du côté du mur et des stands.
Ah, mon ouais. Seul peur, je crois.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que sur le coup, tu sais, il suffit qu'il ralentisse un peu, Vettel, il allait pas freiner, hein.
Bah non. Ah bah d'ailleurs, il a pas freiné, hein. Oui, c'est ce que j'ai aimé, quoi. Le mec, il a pas freiné.
Ça aurait été gag.
À fond.
Ah, ouais, ça aurait été gag, mais bon. Mais il perd il perd encore 7 points sur Alonso cette fois-ci.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment des points perdus, quoi? Alors oui, c'est vrai qu'il peut pas se permettre dans le championnat. Tous les points pour lui sont importants. C'est-à-dire que 7 points, c'est 7 points de gagner sur Alonso, puis c'est 7 points de gagner de reprise sur Weber, quoi. Donc il peut pas se permettre. Maintenant, ça reste quand même tout de même une bonne opération. Il reprend 3 points à son coéquipier.
Oui.
Sur les dernières courses, on l'a vu, les choses peuvent rapidement changer.
De toute façon, ça change à chaque semaine, mais on a toujours ce paquet. Enfin, ça ne se décante pas.
Ouais, voilà.
Donc, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur la course de Vettel?
Bah, on peut peut-être lire les messages des auditeurs, oui, en voyant s'il y a des choses sur lesquelles réagir. On a Iceman Air qui le met deuxième en nous disant il n'a jamais lâché le morceau et a maintenu la pression toute la course, particulièrement dans les derniers tours où il devait sentir la chaleur des échappements de la Ferrari.
Ouais, il était à
lécher son museau. On a Fab qui nous a dit, en le mettant deuxième, je l'ai trouvé assez peu saignant lorsqu'il semblait avoir l'opportunité de pouvoir attaquer Alonso, notamment en fin de course. A-t-il retenu les leçons de ses différents dépassements ratés? On a Steph Core qui le met troisième en lui disant, on ne saura jamais s'il a laissé glisser en fin de course pour ne pas prendre de risques, mais c'est une belle course de sa part, il a été le seul à tenir le rythme d'Alonso. Et enfin, nous avons Maël qui nous dit bonne course et qui nous laisse sur cette interrogation, j'aurais aimé savoir s'il aurait pu attaquer Alonso avec deux ou trois tours de plus.
Ah, il était vraiment pas très loin en temps.
Oui, mais en même temps, il l'aurait fait avant. Oui. Il s'est pas retrouvé dans les derniers tours seulement dans les roues d'Alonso, il a été tout le temps dans les roues d'Alonso. Moi, je pense qu'il a eu 60 tours pour attaquer Alonso.
À noter qu'au classement de la course, il finit à 293 millièmes.
Oui.
Mais bon, il avait fait son écart, Alonso.
Mais ce qui lui a coûté cher sur la fin de la course, c'est qu'il revenait assez fort sur la fin de la course. Mais il a fait une petite erreur. Je crois que c'est à la sortie du premier virage, enfin de la première enchaînement de virages. Mmh. La voiture, en sortant, il a un peu glissé. Il a perdu. Elle est une petite trentaine de mètres sur Alonso, mais là, à partir de là, c'était mort, quoi.
Ouais.
Et peut-être qu'il a levé le pied en se disant, bon, après tout, une 18e place, ça suffit. Même si on voit effectivement, comme à la fin...
Une deuxième.
Ouais, une deuxième place. Même si on voit à la fin que, quand justement Alonso ralentit, lui, il est à fond, quoi. Il continue quand même de passer à fond.
Ah oui, on sait jamais.
Il attaque toujours, quoi.
Et vous aurez remarqué la poignée de main très polie entre Vettel et Weber.
Ah, c'est ça s'ignore sec. Hein.
Ouais. Voilà. Oh.
Quand tu vois ça, j'ai même l'impression que Massa et Alonso ils sont potes.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'aussi Alonso et Massa depuis l'Allemagne. C'est clair que chez McLaren c'est des potes et tout. Quand l'un gagne, l'autre est content.
Même si je trouve que ça fait longtemps que Vodafone n'a pas fait de vidéo.
Non, mais ils ont pas besoin. De toute façon, c'est tellement une bonne ambiance dans les autres équipes que. Pas besoin, hein.
Voilà, McLaren n'a plus rien à faire pour dire qu'ils s'aiment.
Ils s'aiment bien, on le voit très bien.
Ils ont même pas besoin de dire qu'ils s'aiment, ils ont juste besoin de dire, voyez, nous on se déteste pas.
Oui.
Même pas besoin de vous dire qu'on s'aime, on se déteste pas.
Oui. On passe au grand vainqueur de la course.
Marquesi.
Et j'insiste sur le grand, parce que vraiment, il a fait un grand truc.
Son premier grand chelem.
Oui. Parce que déjà, il avait fait un hat-trick.
Ouais.
À Monza. Pas mal du
son,
tout.
C'est son cinquième hat-trick, là, je crois, à Singapour. Et
donc là, il rajoute un hat-trick, et d'ailleurs, il fait le grand chelem cette semaine au classement du SAV, parce que tout le monde l'a mis premier, il se qualifie brillamment, il part premier, il finit premier.
Avec un sacré départ, quand même. Ah, moi, j'ai aimé son départ. Il y en a qui ont dit qu'il avait été un peu musclé. Non, moi j'ai bien aimé au contraire.
Ouais, c'est vrai que...
Il a été autoritaire, quoi. Voilà,
oui, on va dire ça, il a été autoritaire.
Il s'est mis sur le côté, il a dit, ah là, écoute, je suis pas ton coéquipier. Je vais te laisser sortir, mais par contre, tu restes derrière. Ton coéquipier, lui, il te laissera pas sortir. Mais moi, je te laisserai sortir. Si t'es sage.
Et alors, Alonso, sur les 5 dernières courses, c'est quand même 3 victoires et une seconde place. Hein.
Ouais.
On croyait plus forcément en Alonso... pour le titre.
Ah bah lui quoi,
il avait dit et en plus il avait dit hein, bah écoutez, je suis cinquième, donc je vais viser la quatrième place, puis quand je serai quatrième je viserai la troisième, et c'est ce qu'il a fait.
Ouais,
il était cinquième, quatrième, troisième, il remonte à chaque fois,
bientôt premier.
Bon là il est deuxième, hein, donc il n'y a plus qu'une place.
Ah bah tu sais, moi je m'engage.
Il nous a expliqué hein, ce truc très con hein, de bah Mark Webber il marque 15 points en moyenne.
Ouais.
Donc si je suis tout le temps sur le podium, je devrais pas être très loin.
Mais moi je vais m'engager. Enfin ouais, je vais m'engager. L'autre il s'engage à 4 courses de la fin. Bon, je vous dirais qu'il y a 2 courses j'ai fait des pronostics disant que c'était Hamilton qui était champion. Enfin peut-être pas que je fasse de pronostics.
Après avoir dit que ça pourrait être Weber et après avoir dit que ça pourrait être Vettel.
C'est ça qui est excitant dans cette saison, quoi. C'est que à chaque course tu changes. Oui. Mais finalement, celui qui a été le plus régulier sur la même pente, lors des 5 dernières courses, c'est Alonso.
Ah, c'est lui qui fait la meilleure période.
Et je me dis que c'est peut-être lui aujourd'hui qui est le plus dangereux pour le titre, en fait. S'il y en a un dont il doit se méfier, c'est lui, quoi.
Ah, mais oui. J'ai l'impression de revoir Raikkonen 2007.
Ouais.
Où il fait pas forcément un début de saison exceptionnel.
Bah c'est quasiment la même saison, hein, c'est du copier-coller.
Voilà. Et tu te souviens, Raikkonen, il fait 2 victoires, Grand Prix de France, Grande-Bretagne,
Et quand tu regardes sur StatF1 la deuxième partie de saison de Raikkonen, c'est ça.
Oui, non, mais c'est ça.
Victoire, victoire, seconde place, un abandon, deux victoires, un truc de malade.
Le titre de Raikkonen, c'est une première course où il gagne. Et ensuite il y a un gros creux de Ferrari et après il revient en pleine forme et en pleine bourre à partir de l'été. Et voilà. Là Alonso, c'est la même courbe. Exactement.
C'est la même courbe. Voilà, cette classe de pilotes, on sait que quand ils sont partis, voilà quoi. Et là, c'est clair qu'il y en a déjà qui disent bon bah, attendez, là Alonso il a mis la 7e, va falloir rattraper maintenant. Il y a aussi un fait, c'est que la Ferrari, on a longtemps dit, surtout le début de saison, la Red Bull était quand même la meilleure voiture, avec ponctuellement la McLaren, avec son F2 qui était capable de faire des bons trucs. On a vu la Ferrari revenir en début de l'été, revenir dans le coup, et là en ce moment avec Alonso, on peut se poser la question si la Ferrari n'est pas la meilleure voiture de cette fin de saison.
La meilleure peut-être pas encore, je pense qu'il y a encore un avantage à Red Bull. Maintenant, c'est vrai que les progrès faits par la, parce qu'il faut quand même rappeler Ferrari, au début de saison, ils étaient très bons. Puis en fait, à un moment donné, ils ont pris des directions de développement qui ne se sont pas concrétisées et on s'est enfermé là-dedans et on a perdu ils se sont perdus en fait dans le développement. Mm. Et là, ils reviennent avec une force.
Ça a commencé au retour du Canada.
Oui.
Parce que souviens-toi, il y a deux grands prix, Europe et Grande-Bretagne, où ils font pas un bon résultat. Mais on percevait que la voiture allait mieux.
Oui.
C'est juste que les circonstances de course ont fait que, voilà, ils ont eu des mauvais résultats, mais on sentait que la voiture allait beaucoup mieux.
Puis ils avaient mis en place un programme, je crois, sur trois courses, où ils avaient dit, voilà, dans chaque course, on va apporter un nouvel élément qui va faire progresser la voiture. Donc ils ont apporté le diffuseur, etc. Puis ils ont apporté des petites modifications à chaque fois, ils ont fait les bons choix de développement, etc. Et finalement, la pression que leur fait peser Alonso et le fait d'avoir un leader et un numéro 2, finalement, pour Ferrari, ça y est, tout est revenu en ordre.
Bah eux, ils ont résolu le problème. Hein. Voilà, ils ont un pilote. Ils ont même plus trop associé sur le constructeur. Hein.
Oui, non,
ils sont en retard. Ils savent qu'ils peuvent se focaliser sur un truc et ils le font très bien. Et puis pour le coup, Alonso, voilà, il met la voiture à 100%.
Et c'est aussi le mode de fonctionnement qui correspond à Ferrari, quoi.
Ah oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, on sent Ferrari en ordre de marche. Tout est organisé. Les ingénieurs font leur boulot, les pilotes font leur boulot, etc. Après une sorte de cacophonie qu'il y a eu au début de saison, là, ça y est, tout est harmonieux et tout avance.
J'espère, c'est que si Alonso est titré, il le soit avec plus de 7 points d'avance.
Honnêtement, personnellement... Justement, alors je trouve, moi, ce que je trouve encore plus fort dans la course de Singapour et celle de Monza, je pense véritablement qu'Alonso a fait fermer toutes les mauvaises langues qui auraient dit il a gagné mais avec 7 points d'écart seulement, il n'est pas vraiment champion, etc. Non.
Dans le style, il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu vois, s'il était avec 7 points, il n'y aurait plus rien à dire. Quoi.
Oui, voilà. Mais honnêtement, même s'il y a un point,
on
se rappelait quand même des circonstances du titre de Raikkonen, avec ou même le titre d'Hamilton et les circonstances du Grand Prix de Belgique. Il y a toujours à un moment donné, on peut dévaluer le titre de quelqu'un en disant, vous vous rappelez cette course-là. Oui, mais à la fin, c'est le compteur qui compte, tout simplement. Et quand
ils sont désormais 2 à 4 victoires.
Ouais. Et là, du coup, le meilleur allié d'Alonso, c'est Vettel.
Bah oui.
Tout l'intérêt d'Alonso, c'est que Vettel prenne des points, quoi. Plus Vettel va prendre des points, peut-être qu'il va se rapprocher de lui, mais ça va attiser en de plus belle la machine à bêtises de chez Red Bull, à savoir un anneau de pilote. Ah bah oui, mais il faut qu'on favorise un petit peu Vettel. Voilà, la machine à perdre, tout simplement.
S'il faisait ce choix, enfin, il s'enlèverait beaucoup de soucis pour les 4 prochaines courses.
C'est certain.
On va passer au classement.
Oui.
À vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire sur la course d'Alonso. Parce que...
C'est
un peu comme Monza, il a tellement dominé pour le coup que...
Oui, là, sur cette course-là, il n'y a rien à dire, il n'a pas fait d'erreur. Enfin, il en a fait une petite apparemment.
Oui.
il a surpris son monde en qualif alors qu'on l'attendait pas forcément.
Et donc, au classement pilote du SAV, Alonso est premier, toujours. Ouais. Avec 208 points.
Yes.
Devant Vettel, 194. Weber 183, Hamilton 171, la marche commence à être haute, et Button 147. Ouais, Button, il sera pas champion du SAV hein, cette année.
Bon, déjà l'an dernier, il l'était pas.
Ouais. Au classement des équipes, Red Bull est premier 377 points, McLaren 316. Là, il y a 60 points quand même, sachant que dans le classement du SAV, on met rarement... Il y a peu de doublés.
Ouais.
Très très peu. On a tendance à beaucoup panacher. C'est rare qu'une équipe fasse 43 points d'un coup. Donc là, ça va être dur à rattraper. Par contre, on voit que Ferrari est à 296 points. Donc il n'y a que 20 points entre Ferrari et McLaren. Et là, par contre, peut-être que Ferrari pourrait finir deuxième du classement équipe des SAV. Mercedes est à 168 points. Et Renault est à 158.
J'ai une grande nouvelle pour toi.
Non, l'iPhone ne sera pas en HD.
J'ai déjà le classement de la course du Japon.
C'est trop fort.
C'est Massa qui va gagner devant Vettel, Weber, Rosberg, Alonso, Hamilton. Autant dire que ça commence à sentir bon pour Weber.
Ouais. Dans l'autre classement, donc Mark Weber est devant avec 202 points, Alonso 191, Hamilton 182, Vettel 181 et Button 177. Il y a 25 points d'écart entre les 5 premiers.
Pile poil.
Voilà, les classements sont différents d'une semaine à l'autre, mais ça ne se décante pas. On a toujours ces 5 pilotes. Et donc théoriquement, 100 points maximum à distribuer, 75 points.
Dans la Corée.
Je vais pas dire probablement, mais c'est pas impossible. Quand même, hein, cette absence de Grand Prix de Corée, ça peut avoir des grosses conséquences, mais c'est pas anodin quand même pour le classement. Chez les constructeurs, Red Bull 383 points, McLaren 359, Ferrari 319, Mercedes 168 et Renault 133. Quand même, la quatrième place pour Renault, ça va être compliqué. Hein.
Ouais.
Il est peut-être temps d'arrêter
le développement. De toute façon, Renault, c'est officiel, ils arrêtent le développement de la R30 et ils se concentrent tellement sur la R31.
C'est plus sage, parce que là... À noter hein, que Force India est à 60 points et Williams à 56.
Oui.
Donc 4 points, voilà, ça va faire une petite un mini championnat quand même pour cette fin de saison. Alors, on va passer au fait marquant de la course.
Oui, vas-y, finis pas ce fait marquant de la course.
Il dit cette fois parce qu'il sait qu'il a gagné.
I am the champion of life. Faut vraiment que je fasse le compte sur toute la saison, je suis sûr que je t'ai battu.
Donc, quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2010? Bon. Il est arrivé troisième, et pourtant, pendant longtemps, il a été deuxième. Et il s'est écroulé sur les deux, trois derniers jours. La stratégie de pneus de Vettel, 21%, 6 votes.
C'était qui, ça?
Bah, c'était moi.
Ah, c'était toi?
Oui. L'énorme erreur d'Hamilton, 36%, 10 votes. Et Alonso qui conquiert Monza, 43%, 12 votes. C'était toi, Dino, Alonso qui conquiert Monza. Après, je sais pas trop les deux autres comment ça a évolué. Notez qu'on avait 28 votants.
Ouais.
Le fait marquant de Singapour. Donc, je vais commencer, forcément. Oh bah quand même, hein, je vais mettre l'accrochage Weber-Hamilton.
Ouais.
Quand même, entre deux pilotes qui jouent le titre en plus.
Le problème, c'est qu'on, du côté des auditeurs, on n'a rien reçu.
Ah, on n'a rien reçu.
Alors comme on a Fab qui nous a mis petite mention spéciale à Kovalainen.
Ouais.
On peut peut-être dire, Kovalainen qui s'enflamme sur la...
C'est vrai que c'est pas banal, ouais, on peut le mettre, vraiment.
Et moi, qu'est-ce que je mettrais comme fait marquant
C'est passé plein de trucs en plus à Singapour.
Oh, il y en a plein. Le pari stratégique de Weber.
Ouais, c'est pas mal ça.
Le pari stratégique du leader du championnat.
Pourquoi tu mets pas Weber?
Parce que il faut vraiment insister sur le fait que c'est le leader du championnat qui a fait Paris. C'est encore pour moi, c'est encore plus impressionnant.
Mm.
Au cas où tu sais, nos auditeurs seraient pas au courant que Weber est leader du championnat.
Ouais.
C'est un mec qui a pas suivi la F1 depuis 2 ans, il peut pas savoir que Weber est le leader du championnat.
C'est bon, tu as noté?
Oui, ça y est, c'est bon, je te dis.
On va passer au drive-thru.
Yes.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, Dino, est-ce que les auditeurs déjà nous ont donné des drive-thru cette semaine?
Oui, c'est Fab, voilà, qui nous a donné un drive-thru. Un drive-through contre la gestion des drapeaux par les commissaires, donc un drive-through contre les commissaires, notamment dans le cas de l'accrochage Weber-Hamilton ou comment ruiner une course en n'utilisant pas un simple morceau de tissu bleu. Alors je sais pas, j'ai pas vu les images. Est-ce que c'est vraiment le manque de drapeaux ou est-ce que c'est Di Grassi qui respecte tout simplement pas le drapeau quoi.
J'ai pas fait attention. C'est vrai que bon.
J'ai dit qu'est-ce que tu branles.
Et en plus, je me demande pourquoi il y a des gars qui ont des drapeaux alors que normalement il y a des écrans avec les.
Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait ils font des drapeaux, mais en même temps il y a les écrans.
Je comprends pas.
Et c'est surtout c'est ça quoi, c'est-à-dire qu'ils ont gâché de l'argent dans un système de diodes pour le doubler d'un système de drapeaux qui finalement est plus utile quoi. Donc.
C'était tout.
Oui, c'était tout du côté des auditeurs, c'est tout.
D'accord. Dans le prolongement, moi je vais dire, c'est aussi un peu les commissaires, mais globalement c'est sur un événement dont je vais parler, mais c'est un peu cette marque de fabrique de Singapour qui veut que quand il se passe un truc, voilà, dans un circuit normal, on enlève les trucs en 5 minutes, quand on est à Monaco ça met 2 minutes et quand on est à Singapour ça met 2 heures.
Bon, faut quand même dire qu'ils ont fait des progrès.
Oui, c'est vrai, avant, ils en mettaient 3.
Non, mais sérieusement, on se rappelle, moi, je crois que c'est le premier Grand Prix où vraiment, c'était insupportable parce que dès qu'il y avait un truc, il y avait voiture, il y avait drapeau rouge, c'était très lourd, quoi. Alors que là, finalement, il y a eu un drapeau rouge, je crois que c'est en qualif pour la voiture de Massa. Oui.
Et mais je pense notamment à un des faits marquants, l'incendie de la voiture de Kovalainen.
Ah oui.
Enfin, c'est Kovalainen qui a éteint sa voiture. Ça ne devrait pas être à lui de le faire. Enfin, il l'a fait, enfin, heureusement. On lui a donné un extincteur, et vous vous rendez compte, alors, il éteint la voiture, et c'est au moment où il n'y a plus que de la fumée, que tu vois que le commissaire arriver, alors que c'est bon, quoi, je veux dire, il a éteint l'incendie. Ça n'est pas normal. C'est pas au pilote de F1 de faire ça. Et, oui, c'est un élément, parmi tant d'autres, parce que, comme je l'ai dit, généralement, dès qu'il se passe un truc, je sais pas, alors, c'est vrai qu'il y a ce problème des accès, visiblement, ou, bon, sur certains endroits, il faut qu'il fasse tout le tour pour accéder. Mais mettez des grues, parce qu'il n'y a pas de grues. Voilà. Hein. À Monaco, ils ont compris, on met des grues, que ça permet de vite évacuer les voitures. Et oui, ça devient agaçant, parce qu'en plus, ça donne des choses un peu hachées. Dès qu'il y a un pauvre petit élément, et ben comme ça prend du temps, faut sortir une safety car. Alors déjà que la course est super longue, encore une fois, on s'est posé la question si la limite des 2 heures serait pas dépassé.
Ah, ça a été chaud, hein. La course, elle a duré 1h57.
Et donc voilà, alors pourtant on nous dit oui qu'il y a qu'il y a l'organisation du Grand Prix d'Australie qui se passe plutôt bien au niveau de son organisation, qu'ils ont eu des aides de Monaco parce que c'est des circuits urbains. Eh ben, j'ai envie de dire que ça se voit pas. Donc voilà, c'était sur ça, sur l'organisation. Puis on pourrait noter aussi l'affaire de la chicane 10, ça fait 3 ans qu'on dit aux organisateurs, rabotez-nous les petits picots parce que ça nous pète les suspensions. Il y a Sutil quand même qui s'est envolé cette année. Voilà quoi. Qu'il y ait une chicane, ok, mais un truc qui pète les bagnoles.
Surtout qu'elle rapporte rien cette chicane. Enfin honnêtement.
L'important c'est juste de ralentir les voitures. Alors déjà t'as le vibreur, en plus t'as ce petit rebord parce que c'est ça le problème, c'est quand ils se prennent le rebord.
Ouais.
Les voitures s'envolent, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as un drive-through? T'as eu le temps de chercher, quand même.
Oui, mais en plus, j'ai même pas eu besoin de chercher parce que, avant chaque émission, j'ai un site qui me permet de revoir des extraits de la course. Ça me permet de, puis comme ce soir, j'avais un peu de mal à faire mon top 10, ça m'a permis un petit peu de m'affiner, etc. Et donc, je suis allé sur ce site pour regarder les extraits de la course. Et telle n'a pas été ma surprise de tomber sur un passage où la FOM, qui dirige la réalisation, nous passe un replay pour nous montrer l'accident de Nick Heidfeld avec les deux Force India. D'abord celle de... Enfin, dans un premier temps, ils nous ont montré l'incident avec la Force India de Liuzzi, quand en fait, Liuzzi lui rentre derrière et rappe un bout d'aileron sur l'arrière de la voiture de Heidfeld. Et juste derrière, il nous montre un replay d'un incident qui a eu lieu quelques virages avant, où Heidfeld se fait doubler par l'extérieur par Adrian Sutil. Et mon drive-through, il a l'intention des commissaires, qui visiblement n'ont pas regardé le même Grand Prix que nous, parce qu'ils ont attendu après la course pour donner une pénalité à Adrian Sutil, pour avoir gagné une place en étant hors de la piste. Sauf que dans ce fameux replay, on voit clairement que ça, c'est dans le virage que je me rappelle. Bah, c'est le virage où il y a eu l'accident avec avec Hamilton et Weber.
Oui.
Et dans ce virage, en fait, le virage est assez large. Et en fait, comment ça s'appelle, la piste, elle est délimitée par une bordure au milieu de la rue, en fait.
Oui.
Donc vous avez de l'autre côté de la bordure, vous avez encore de la rue. Et en fait, vous avez Heidfeld qui donc passe sur le vibreur et qui se fait doubler par l'extérieur, donc en dehors du circuit, qui se fait doubler par Adrian Sutil. Et c'est à ce moment-là, c'est là qu'est due la pénalité de Sutil. Et il faut attendre la fin de la course pour les commissaires donne 20 secondes de pénalité alors que on a passé le replay en course, quoi. C'est en course qu'il fallait le remarquer. Voilà. Donc ils faisaient quoi les commissaires? Bah je sais pas. Et donc du coup moi ça m'a bien fait chier parce que j'ai fait mon classement du SAV. Ça m'a bien énervé parce que au moment où je publie le classement Fantasy F1, j'apprends qu'il y a la pénalité de Sutil. Il pouvait pas le faire pendant la course, c'est couillon. Hein. Et donc du coup ce drive-through contre les commissaires qui pour moi, sur ce coup-là, n'ont pas fait leur boulot, ou en tout cas faisaient autre chose. Il y a un mini drive-through, j'en ai déjà parlé, contre Force India, qui a fait sa mauvaise joueuse en allant balancer sur Hülkenberg. Et honnêtement, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, comme dépassement sur Hülkenberg, alors si c'est l'action qui se déroule sur les Force India, il y a rien de répréhensible. Enfin, voilà, il est sur le vibreur, il y a strictement rien de répréhensible. Non, voilà, honnêtement, c'est un. Mais ça, alors, dès que j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, je ne cherche plus de drive-thru. C'est rare quand j'ai un drive-thru. Hein. J'ai dit n'en cherche plus parce que là, honnêtement, c'est du foutage de gueule.
On va passer au concours top position.
Oui, on va y passer beaucoup de temps, Shinji.
Ah oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top position. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Donc, la question était proposée par Globen, qui nous demandait en quelle année Ferrari s'est-elle inspirée du circuit du Grand Prix d'Italie pour nommer une de ses voitures. Bon, globalement, on vous demandait surtout le modèle, hein, plus que l'année, c'était le modèle déjà. Et donc, la réponse est, Shinji.
Alors, c'est la Ferrari Monza.
Oui.
Alors, qui date de 1900.
C'est la 750 Monza.
Ah, oui, parce qu'il y a la 750, il y a la 860, la 250.
Voilà, il y a plusieurs modèles. La 250 est dérivée du châssis 750.
D'accord. Donc, elle date de 1954.
Ouais.
Et alors, il y a un petit truc cocasse, en fait, sur Wikipédia. En fait, sur la page de la Ferrari 860 Monza. Alors déjà, bon, ça part de la Ferrari 860, mais y a qu'une phrase, en fait, dans l'article. Et la phrase, écoutez bien, la Ferrari 750 Monza, bon, déjà, bon, 750-860, mais bon, la Ferrari 750 Monza est une automobile de course développée par le constructeur français Ferrari.
Relis, parce que je crois que certains n'ont pas compris, Cindy.
Je vais bien relire. La Ferrari 750 Monza est une automobile de course développée par le constructeur français Ferrari.
Non mais vous n'allez quand même pas nous forcer, Shinji à relire trois fois.
Eh bien, j'ai envie de la relire trois fois.
Vas-y, Shinji, fais-toi plaisir.
La Ferrari 750 Monza est une automobile de course développée par le constructeur français Ferrari. Donc vous allez sur Wikipédia, vous tapez Ferrari 860 Monza ou 750 Monza, ça redirige sur la même page.
Et donc effectivement, voilà, pour eux, Ferrari. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand vous cliquez sur Ferrari, vous tombez sur l'entreprise Ferrari et on vous parle de l'entreprise Ferrari italienne.
Italienne, hein, non. Oui, il n'y a pas de doute.
Il y avait aussi une autre question qui avait été proposée par Loulas, qui était surnommé le gorille de Monza et qu'on vous avait invité pour la culture personnelle à aller chercher. Vu le nombre de réponses que nous avons eues. On ne sait pas si tout le monde a cherché, donc on va être gentil avec vous, on va vous donner la réponse. Et c'était qui, Shinji?
Gorille de Monza. Brambilla, mais je ne sais plus son prénom.
Brambilla, Vittorio Brambilla.
Là, voilà.
Qui était appelé comme ça le gorille de Monza. Je me demandais pas pourquoi. Peut-être qu'il était très poilu, en fait. Mais c'était un vrai gorille, en fait. C'est ça. C'est le premier gorille et le dernier gorille de Formule 1.
Il y a eu pas d'autres questions?
Non, mais sur les 113 pilotes italiens, combien et qui furent les champions du monde? Moi, c'était Farina et Ascari.
Oui. C'est le grand drame des Italiens.
Oui.
Ça fait 60 ans qu'ils attendent un champion du monde italien.
Alors pourtant, Ils sont pas à plat niveau constructeur, quoi.
Ah, non, non.
Et donc, là, vous dites combien avons-nous eu? Je crois que c'est un record. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de réponses.
Ah oui.
On en a eu une.
Est-ce qu'au moins elle est bonne?
Alors, il a répondu Ferrari 250 Monza en nous donnant comme anecdote que c'était basé sur le châssis 750 Monza. Voilà.
Oui, bon. Voilà, comme vous nous,
comme vous nous connaissez, nous, à la limite, enfin, on accepte les réponses approximatives. De toute façon, on cherche pas les réponses puisqu'on vous demande de nous donner les réponses. On va pas se faire les chercher. Donc, voilà. Généralement, on accorde assez facilement. Et donc, c'est, alors, je vais te proposer une, la réponse et tu me diras si tu la question. Réponse. Oui. Et, tu me diras si tu préfères celle-là ou si tu préfères celle-là.
Oui.
Et cette question est sur quel circuit et avec quel pilote les premiers tests d'une monoplace de nuit ont eu lieu en vue du Grand Prix de Singapour en 2008.
Oh, c'est bien ça.
Alors justement, d'où la question que ça, je me dis, quelle réponse, enfin quelle question vas-tu choisir?
J'hésite.
Ah, je te comprends, il y a un dilemme.
Écoute, je crois que je vais prendre celle de...
D'ailleurs, je crois même que tous nos candidats qui ont participé à cette question frémissent en se disant, est-ce que j'ai gagné?
Ça me fait de la peine, mais je crois que je vais devoir choisir celle de Sato Kamikaze.
Ah, en fait, tu sais même qui l'a écrite, c'est parfait.
Ouais. Parce que j'ai reconnu son style.
C'est effectivement Sato Kamikaze. Bravo, Sato Kamikaze. Hein. Bon, là, j'avoue, j'ai donné le nom un peu à l'avance à Philippe.
Mais en même temps, il n'y avait qu'une. Hein.
Donc, voilà. Donc, bravo, Sato Kamikaze. Tu as gagné un petit bout de papier avec ton nom dessus pour le grand tirage au sort de fin de saison, bientôt. Faut qu'on trouve un cadeau, je te dis, faut qu'on le dépêche. Avec un beau cadeau
aussi,
à la
c'est aussi pour ça qu'on est cool sur les réponses, hein, parce que fondamentalement, vous gagnez que des bouts de papier. Hein.
Voilà.
Mais on offrirait tous les jours une Ferrari 599 GTB, on serait beaucoup plus rigoureux.
C'est certain. Mais en même temps, attention, hein, plus vous gagnez, plus vous avez de chance d'être tiré au sort.
Et attention, malgré que j'ai fait référence à la Ferrari 599 GTB, n'espérez pas que vous allez en gagner une, faut pas exagérer.
Même pas en modèle réduit, vous voyez.
Ah non, même en modèle réduit, c'est trop cher. Sur ce, on va passer à la prochaine course.
Au Japon.
Sur Suzuka, ce circuit qu'on aime tant. Alors, sur un crash, j'ai pas dit le plus beau circuit du monde. J'ai dit ce circuit qu'on aime tant.
Voilà. Non mais tout le monde va le dire, c'est le plus beau circuit, mais voilà.
Ah, est-ce que tu as un favori?
Ah oh bah maintenant je vais tout le temps te dire Alonso. Non mais honnêtement je pense Vettel. Mais Alonso deuxième.
Moi je dirais Vettel ou Hamilton.
Non non pas Hamilton, c'est mort pour lui, c'est fini.
Je pense que Hamilton jamais
on entendra parler d'Hamilton. C'est fini Hamilton, c'est le vieux temps.
Tu risques d'être déçu.
Regarde comment déjà on parle plus de Schumacher.
Ah si, on parle tout le temps. Pour dire qu'il est nul.
Bah voilà, Hamilton, on n'en parlera plus, tu verras. C'est fini cette époque.
Sur ce, on arrive à la fin de l'émission.
Enfin.
Comme d'habitude, on remercie tous nos partenaires.
Donc oui, on peut remercier standf1.info, on peut remercier également Sabrina du site toutf1.com, remercier nos amis du Tour Mécatech, Sato Kamikaze et Globen. Voilà, qui c'est qu'on a d'autres comme partenaires? Bah, personne.
Ah, StatF1 quand même.
Oui, StatF1, mais c'est pas des vrais partenaires, StatF1.
C'est pas des vrais partenaires. Oui, mais
c'est quand même les remercier. Officiel.
Faut quand même les remercier. On vous souhaite à tous une bonne semaine.
Oui.
Une bonne course à Suzuka.
Oui.
Et donc, comme chaque semaine, nous vous quittons sur ces quelques mots.
Oui, Shinji, nous allons nous quitter sur un proverbe germano-australo-hispano-britannico-britannique qui dit ceci, un très vieux proverbe, qui dit à Singapour, la nuit porte conseil, mais donc tes espoirs de titre en veille.